Alors, bonjour. Allô? Allô, il y a quelqu'un? Voyons, je suis tout seul aujourd'hui. Martin? Martin, t'es où? Je sais pas quoi. Il va falloir que je fasse ça. Ah non. Un podcast en solo. Ah non.
C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin.
Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Alors mon nom est Martin Lafrenière de la chaîne YouTube de la zone Jeux de société. Et pour m'accompagner cette semaine dans ce podcast un peu spécial, ben nul autre que absolument personne. Ben non, c'est un podcast que je fais tout seul aujourd'hui. J'ai pas d'invité non plus. Il n'y a pas de Stéphane Bastien qui est avec moi. Il n'y a pas non plus de Stéphane Couture. J'ai pas invité un autre YouTuber et c'est pas parce qu'ils se sont pas présentés ou qu'ils n'ont pas montré leur intérêt. C'est moi qui ai dit à Martin que j'avais envie de faire un podcast totalement tout seul. Martin en a fait un avant qu'on tombe en vacances pour l'été. Puis, je voulais le faire moi aussi parce que il y en a qui disent des fois, surtout mon ami Stéphane Couture, qui dit souvent que je suis tout seul, que je parle beaucoup tout seul dans ce podcast-là. Puis, j'écoute les podcasts, puis c'est pas vrai. Martin, il intervient pas mal souvent, mais c'est sûr qu'on a une belle interaction, lui puis moi, puis on est tous les deux des passionnés. Et oui, peut-être que j'ai tendance à parler toujours un petit peu plus. Parce que j'aime ça discuter, j'aime ça parler, j'aime ça créer du contenu. Fait que là, cette semaine, ben c'est moi qui ai écrit à Martin, puis il a dit, parce que Martin est présentement en Europe pour les 3 prochaines semaines. Là, je pense qu'il était à Vichy, si ma mémoire est bonne, pour le premier un festival. Vous m'excuserez, là, j'ai pas les modalités du festival. C'était en Belgique, je pense. En tout cas, il y a des gens qui vont sûrement pouvoir me reprendre. Donc, il était là. Puis, quand je lui ai écrit, il me dit, ah, merci beaucoup, Martin, parce qu'on était supposé de se faire des podcasts à distance comme ça. Mais il y a eu une grosse, grosse, grosse fin de semaine la semaine dernière pour parler du jeu Sky Teams. Sky Teams, qui est le tout nouveau jeu du Scorpion masqué. C'est-tu Scorpion masqué qui l'édite, je pense que oui, c'est Scorpion masqué. Effectivement, c'est Scorpion masqué. Jeu que je n'ai pas encore eu la chance de jouer. Je devrais en recevoir une copie dans pas grand temps, mais je sais qu'il fait beaucoup le tour du monde présentement, Sky Teams. Les gens semblent l'apprécier beaucoup. C'est Luc Raymond qui est le designer du jeu. Et il y a eu une petite soirée il y a quelques semaines d'ailleurs dans un randol avec M. Luc Raymond, le designer, pour présenter ce jeu-là. Et j'ai pas pu me présenter malheureusement dans cette soirée-là. Mais Martin m'a dit qu'il avait fait une centaine de parties ou qu'il avait présenté une centaine de parties. Puis il était d'accord avec mon idée que je le fasse en solo. Mais ne vous en faites pas. Je ne vais pas m'installer pour chanter une chanson ou je ne ferai pas de jeu questionnaire musical. J'ai décidé de vous faire un côté A. Donc, c'est littéralement un côté A en solo. On va suivre la même structure. La seule différence, c'est que ça sera peut-être pas un épisode qui va durer 3 heures, malgré qu'avec moi, on le sait jamais. Ben là, présentement, on est dans l'introduction. Je vais vous parler de mes quelques expériences ludiques qui sont assez minimes. Je ferai quelques news, donc quelques nouvelles mélangées avec du socio-financement. J'ai quand même beaucoup de choses à vous dire sur le socio-financement. Puis, je suis content de faire ce podcast-là en solo. Je dois vous avouer que je consomme beaucoup de podcasts. J'aime beaucoup ce médium-là. Depuis le début de mon année scolaire présente, je covoiture beaucoup avec mon ami Éric Ménard, qui est mon ami, si vous suivez la chaîne de la zone de jeux de société, puis j'en ai déjà parlé aussi sur le podcast. Éric, c'est pas un grand amateur de jeux de société, mais il ne joue qu'à un seul jeu et c'est les aventuriers du rail. On covoiture ensemble avec mon auto électrique pour vraiment une visée environnementale, d'essayer de faire notre part pour la planète et Et ça me coupe un peu d'écouter mes podcasts. Hein. J'ai quelques podcasts de jeux vidéo, j'ai quelques podcasts de jeux de société. Je vous dirais que les podcasts de jeux de société que j'écoute en grande majorité, ben vous le savez, hein, c'est The Secret Cabal Gaming Podcast, qui est le podcast que j'écoute. En fait, le podcast que vous écoutez présentement de l'autre côté du plateau est pas mal un podcast qui est calqué sur celui de Secret Cabal. On en a souvent parlé. Martin, je sais que quand j'y ai parlé de créer ce podcast-là, il en a beaucoup écouté puis qu'il les écoute toujours. J'écoute aussi un autre podcast qui s'appelle La Pioche. Ben oui, c'est notre commanditaire. On lui dit un gros salut d'ailleurs à notre ami JP. JP fait un excellent podcast que je vous ai d'ailleurs parlé dans la petite publicité la semaine dernière. De la Pioche. Alors, vous irez écouter ça. C'est vraiment très, très intéressant. J'écoute aussi le podcast On joue-tu, podcast que j'apprécie énormément. Et on est peut-être, c'est difficile là, à cause de nos du décalage horaire, mais on est supposé éventuellement de peut-être faire un crossover, un podcast crossover avec le podcast dont joues-tu. Mais vous irez voir ça, c'est. Ouais, ben, vous pouvez aller voir la chaîne, on joue dessus, mais le podcast, vous allez l'écouter. Sinon, il y a Balado Ludique aussi que j'aime écouter, là, qui existe depuis quand même très longtemps et que j'apprécie énormément. Mais il ne faut pas que je laisse de côté quand même le podcast, un board game presque parfait. Alors, le podcast de mon ami David Couteau, qui va bientôt fêter son 100e épisode. Ce n'est pas des podcasts à la semaine comme nous. Ils sont pas aussi fous que nous, hein, de faire des podcasts à toutes les semaines. Donc, ça fait depuis plusieurs années, eux autres qui font le podcast. Et là, présentement, de disponible au moment où j'enregistre ceci, qui est le jeudi, qui est la veille de la mise en ligne, ben nous avons l'épisode 98 sur Barcelona, qui est là, donc 99. Et je pense que mon ami David fait un événement spécial pour son 100e épisode. Vous irez voir sur la page Facebook du professeur Board Game. Mais j'adore vraiment beaucoup écouter tous ces podcasts-là. Mais il y en a un que j'écoute particulièrement, qui est un podcast de jeux vidéo, qui s'appelle The Jeff Gerstmann Show. Jeff Gerstmann, je ne sais pas si j'en ai parlé ici, mais j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est un journaliste de jeux vidéo que je suis depuis. Ah, ça doit faire au moins une quinzaine d'années. En tout cas, ça fait longtemps que je le suis. C'est pas un gars qui est bien, bien, bien plus vieux que moi. Mais c'est un gars qui a eu un parcours assez incroyable au niveau des jeux vidéo, là. Il a commencé à travailler chez GameSpot, qui est un site Internet très connu du monde des jeux vidéo. Il y a eu une controverse l'entourant par rapport à une critique qu'il aurait donnée d'un jeu qui était très, très bas. Finalement, il était jeté dehors de GameSpot. Il a créé son propre site qui s'appelait Giant Bomb, pour lequel il a travaillé pendant très longtemps et j'adorais beaucoup, beaucoup, beaucoup ce site-là. Ce site-là a été racheté par GameSpot, ben, la compagnie qui a GameSpot. Dernièrement, il s'est, je pense qu'il s'est littéralement fait montrer la porte de son propre site web, Giant Bomb, et il a créé son podcast, dans le fond, qui s'appelle The Jeff Gerstmann Show. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour cet Américain-là ce que j'aime beaucoup, c'est son franc-parler. J'ai l'impression que c'est un gars qui est reparti à zéro, donc en solo, pour faire un podcast qui dure 3 heures pas mal à toutes les semaines. En plus, une chaîne Twitch, évidemment, puis une chaîne YouTube. C'est sûr qu'il y a des jeux vidéo. Moi, faut quand même, je vous dis, j'ai toujours l'impression que les podcasts de jeux vidéo puis les chaînes de jeux vidéo, ils l'ont beaucoup plus facile que nous. Avec les podcasts de jeux de société, puis les vidéos qu'on peut faire à la Société des jeux dans la zone de jeux de société. Parce que quand tu filmes un jeu vidéo, ton jeu vidéo, il est géré par ton ordinateur, par ta console, puis tu fais juste peser sur un piton, puis ça s'enregistre sur ton écran avec toi qui parles par-dessus. Alors qu'un jeu de société, ben, ça te prend des caméras. Hein. Donc, un jeu vidéo, tu peux t'en sortir avec une seule caméra de face. Puis c'est tout pour faire ta chaîne. Alors que moi, par exemple, j'ai 3 caméras. Une pour mon green screen, une pour ma face, une pour le dessus. Et je trouve qu'on travaille vraiment beaucoup plus fort. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas fort dans les jeux vidéo, là, mais ça, je l'écoute parler, puis je le vois, puis repartir un podcast comme il a fait. Moi, je trouve que c'est un peu plus facile, mais ce que j'aime beaucoup de ce gars-là, c'est que justement, il y avait une grosse machine en arrière de lui. Giant Bomb, il y avait des milliers d'abonnés. GameSpot, c'est la même chose. Et là, il repart tout seul. Il est moins supporté par les compagnies. Mais c'est justement ça, je pense, que j'apprécie, c'est que il dit vraiment ce qu'il pense. Je pense que c'est le cas de pas mal tout le monde. Beaucoup dans le monde de jeux de société, je pense que aussi la majorité des gens disent ce qu'ils pensent, sauf si c'est des vidéos qui sont commanditées. Mais j'aime, en tout cas, j'aime beaucoup son franc-parler, puis des fois, je suis fâché après lui parce qu'il va me parler, par exemple, de Starfield, puis il va dire « Ah, j'ai bien aimé ça au début, mais finalement, j'aime pas le jeu tant que ça. » Puis il va parler d'un jeu que moi, j'aime beaucoup puis qu'il aime pas, et je suis fâché après lui, mais j'apprécie sa franchise. Et en tout cas, si vous aimez les jeux vidéo et puis que vous avez pas de problème avec l'anglais, allez voir son podcast. Et je me suis dit, j'avais envie de faire un podcast comme lui. Puis ce que j'aime, c'est qu'il jase. Il parle. Il commente l'actualité, puis ça lui dérange pas des fois d'aller au-delà puis de dire ce qu'il pense. Fait que c'est un peu ça que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui. Fait que je vous remercie beaucoup d'être là. La semaine prochaine, j'ai aucune idée. Comme je vous dis, je suis présentement en train d'enregistrer ça le 21 septembre et je suis posé de mettre ça en ligne le 22. Il est 16h40. Ma vie, elle est excessivement chargée, mais pas pour les raisons de divertissement, mais pour des raisons de travail. J'en ai parlé en long en large avec Martin la semaine dernière, mais ça continue, nouvelle école. Nouvelle année scolaire, beaucoup, beaucoup de travail. J'avais des rencontres de parents cette semaine et beaucoup de fatigue arrivée le soir. Donc, j'ai moins envie de m'installer pour jouer à des jeux de société. Pas parce que je veux pas, c'est parce que je suis incapable de le faire. Où je m'en allais avec tout ça, je me souviens pas trop. Mais en tout cas, bref, ça pour dire que j'enregistre ça, donc, justement, le jeudi, juste avant de partir au Délirium ludique. Bon, c'est ça, c'est là que je voulais m'en aller. Alors, le Délirium ludique, qui va être ma première présence au Délirium. Je suis jamais allé encore. Puis, ce qui est un peu drôle, c'est que je m'en vais là sous la bannière du podcast de l'autre côté du plateau. Parce que c'est Martin. Ben, en fait, c'était Martin Montreuil qui était supposé d'y aller avec son ami Stéphane Bastien. Et Martin avait oublié qu'il devait aller en Europe pour 3 semaines. J'avoue que c'est vraiment plate d'oublier ça. Et puis, il m'a dit Martin, ça te tente-tu d'y aller? Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que pour moi, c'est comme un genre de commandite de me rendre là. Je suis super content, sans farce, de pouvoir y aller. Puis là, je suis en train justement de regarder. C'est drôle parce que dans les commandites, il y a la Société des Jeux. je regarde présentement sur le site du Délirium ludique. Il y a les deux pions, l'école du jeu, professeur Board Game, et tu gagnes jeux de société, puis la Société des Jeux. Et donc, pas le podcast de l'autre côté du plateau. Mais en tout cas, bref, je vais y aller au nom de la Société des Jeux, ça va me faire énormément plaisir. J'adore énormément Martin. Et puis, j'aime beaucoup sa chaîne. Puis, bref, tout ça pour vous dire que je m'en vais demain et ça a été tellement des montagnes russes pendant toute la semaine de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce que, bon, j'ai ma fatigue personnelle. Hélène a attrapé la COVID pendant la semaine. Elle s'est fait assez tester puis elle était quand même assez malade. Donc, je me suis isolé complètement d'Hélène pendant la semaine, mais il a fallu que je m'occupe de ma famille. J'ai attendu à la dernière minute, j'ai fait mes tests, donc j'ai pas de symptômes, j'ai pas rien, fait que je peux me rendre. J'avais demandé à mon ami Stéphane Couture de me remplacer si je pouvais pas y aller, il a accepté, mais finalement je pars. Puis là, ben, en ce jeudi soir de la veille où je pars, parce que c'est en passant, c'est du le Délirium ludique, il y a deux fins de semaine. La première fin de semaine, c'est du 21 au 24 septembre, et ça s'appelle le premier week-end préliminaire. Et le deuxième, c'est du 28 septembre au 1er octobre. Donc, moi, j'y vais pour la première fin de semaine. Et là, faut que j'amène des jeux. Martin m'a demandé d'amener des jeux en tant que commanditaire. Mais Eric, je pourrais ne pas en amener parce que je suis pas officiellement commanditaire, mais je vais le faire parce que j'en ai tellement de jeux à donner. Mais j'ai aussi amené des jeux pour m'occuper là-bas. Puis je ne sais pas trop quoi apporter. Puis là, je vois qu'il y a une bibliothèque, là. Donc, je pourrais jouer. Mais c'est sûr que je sais que pendant ma fin de semaine, je suis posé de jouer à Food Chain Magnate. Il y a des gens qui m'ont demandé pour jouer à eux autres avec ça. Puis je ne sais même pas comment ça fonctionne, hein, je vous avoue, là. Fait que je sais que je suis posé de jouer, je pense, dimanche à Food Chain Magnate. Ça fait des années que je n'ai pas joué. Puis si je joue avec Jean-Philippe Auclair, oubliez ça. Je vais perdre. Fait que je sais pas si je vais m'amuser à jouer à Food Chain Magnate parce que je sais que Jean-Philippe va être là aussi. Mais en tout cas, je suis posé de jouer à ça. J'ai une partie de Batman Gotham City Chronicles avec Stéphane Bastien. On est supposé de jouer aussi à Too Many Bones. On part vendredi après-midi pour justement arriver en début de soirée. Je vais sûrement avoir du temps pour apporter d'autres choses. Là, je me demande qu'est-ce que j'amène comme jeu dans ma gamme pour que je puisse peut-être faire découvrir des jeux. Puis là, j'avais pensé peut-être au nouveau Castle of Burgundy. Je vais vous en parler tantôt. Ça serait peut-être une bonne idée, mais c'est une grosse boîte. Puis ça aussi, ça commence à me peser, on dirait, d'amener des grosses boîtes. J'ai Woodcraft que je vais vous parler dans quelques instants également. Ça, c'est sûr que je l'apporte. Parce que je pense que c'est un jeu que j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup faire découvrir, dans le fond, aux gens. Puis, écoutez, je sais pas, ça fait partie. Je veux pas en amener trop non plus. Je veux pas faire le genre de personne qui va amener 50 jeux de société. De toute façon, je risque de jouer à plein de jeux que d'autres personnes ont amenés, puis il y a peut-être des exclusivités aussi là-bas. On va voir, on va voir, mais j'ai hâte d'y aller. Vous savez que j'en ai déjà parlé. Je commence à m'habituer à ces rencontres sociales-là, mais je suis pas la personne la plus sociable. Je me suis habitué, je pense, depuis un an à sortir dans des rencontres au Randolph. J'ai fait aussi l'hivernal ludique que j'ai fait. J'ai fait plusieurs Meeple Olympiades. J'ai fait le Meeple Olympiade cette année. J'ai fait aussi une autre sortie à la pioche pendant l'été. Donc, je finis par m'habituer. Puis, juste le fait d'y aller avec Stéphane Bastien, c'est quasiment un rêve. Stéphane et moi, on s'entend très, très bien. Puis, d'aller passer ma fin de semaine avec lui à jouer à des jeux de société, ce n'est que le pur bonheur. Fait que j'aurai probablement l'occasion de vous en parler la semaine prochaine lors du prochain podcast. Mais en tout cas, si vous êtes là au Délirium ludique, venez me dire un petit bonjour, s'il vous plaît. Ça va montrer que vous avez écouté le podcast. Puis venez, parce que moi, je trouve ça très motivant quand des gens finissent par nous reconnaître. On a toujours l'impression qu'on fait ces podcasts-là pour des gens, pour pas grand monde, mais finalement, on regarde des chiffres, c'est quand même pas si pire, mais quand les gens viennent nous voir, nous dire un petit salut, nous dire merci de ce que vous faites là, c'est tellement le fun de recevoir ces informations-là, puis d'avoir ce soutien-là. Fait que si vous êtes au Délirium en fin de semaine, c'est sûr que vous devez écouter ça, devez écouter le podcast vendredi ou samedi, parce que probablement qu'on va repartir dimanche. Je ne sais pas trop à quelle heure ça se termine le dimanche, là. En tout cas, bref, viendrez me voir, ça va me faire un énorme plaisir de vous parler. Est-ce que j'ai une controverse de la semaine cette semaine? Je pense pas. Je pense pas. J'ai pas de controverse, mais je veux quand même vous parler de Voidfall parce que c'est un jeu que j'aurais vraiment beaucoup aimé, je vous dirais, apporter au Délirium ludique. Et je vous le dis encore une fois, là, Voidfall, qui est un jeu de la compagnie Mind Clash Games, qui est un jeu de type 4X. Ça, c'est un 4X. Est-ce que c'est officiel? Bon, il dit, c'est un 4X, mais avec un spin euro. Et les designers de ce jeu-là sont des gens. Ben, j'essaie de retrouver les noms des designers, là, mais je sais qu'on a notre ami David Turzi, qui est le designer du jeu. Puis il y en a un autre qui m'échappe. J'essaie de voir sur le dessus de la boîte si je serais capable de le trouver. C'est pas, par exemple, que tu arrives, puis. OK, c'est écrit ici, dans le fond. C'est David Turzi et Nigel Buckle. Voilà, c'est écrit sous le dessus de la boîte. Puis artistiquement fait par nul autre que Ian O'Toole, que j'apprécie beaucoup. C'est un jeu que je n'avais pas backé au départ. Pourquoi? Écoutez, je pense qu'à cette période-là, j'étais en mode. Ben non, ça fait quand même plusieurs années que ça a été backé, mais je pense que j'étais plus en mode. 4X m'intéressait pas trop. Je pense que je venais juste de me débarrasser en plus d'Eclipse. Puis je me disais, un autre jeu, 4X, il y en a beaucoup sur le marché, ça ne tente pas. Puis moi, je trouve ça correct d'attendre. T'sais, je vous le dis, là, oui, je l'ai acheté d'un magasin pour avoir la Galactic Box. Pour moi, j'aime ça quand un jeu vient me chercher de façon passionnément, là, comme celui-là. Si j'ai l'option puis l'opportunité d'aller me chercher un Galactic Box, ben j'avais l'option de le faire. Je l'ai fait. Probablement qu'il m'a coûté beaucoup plus cher que si je l'avais pris. Je vais regarder le Galactic Box. Le Galactic Box, c'était 135 euros. Ouais, OK. Donc, là, c'est sûr que euros en dollars canadiens. Si je mets 135 euros, ça donne 194 dollars canadiens. OK. Donc, oui, je l'ai payé pas mal plus cher que si je l'avais, si je l'avais pris par le socio-financement, ça, je peux vous le dire. Mais bon, bref, mais c'est pas grave parce que je l'ai déjà dit, je permets à une boutique québécoise, j'encourage une boutique québécoise, puis pour moi, c'est important. Mais bon, j'ai vu le jeu en action, j'ai vu Paul Grogan de la chaîne YouTube Gaming Rules, je l'ai vu commencer à en parler, j'ai vu des vidéos et j'ai surtout vu que c'est David Turzi qui faisait le solo. Puis, écoutez, j'ai décidé de le prendre et depuis ce temps-là, quand je l'ai pris, j'avais quand même regardé sur Internet, puis on était sur le bord. En fait, il commençait, je pense, on était à une ou deux semaines de commencer les shipping là, un peu à travers le monde. Fait quand je l'ai acheté, ou quand, en tout cas quand je l'ai réservé, j'étais sûr et certain que j'avais l'opportunité d'avoir une... Je pensais avoir ce jeu-là au début du mois de septembre. Okay? Puis après ça, de le présenter, parce que Voidfall, je pense que c'est un jeu qui va attirer. Je pense que c'est un jeu que les gens vont apprécier. C'est un jeu que moi, j'apprécie parce que j'aime beaucoup la compagnie Mindclash Games. J'aime énormément ce qu'ils font. Je trouve que c'est une compagnie qui font des jeux de qualité, des jeux, écoutez, que ce soit Anachronie, que ce soit Trickerion, que ce soit Perseverance, Voidfall. Moi, j'aurais dû sauter sur l'occasion de le prendre en socio-financement. Je l'ai pas fait. Mais quand je l'ai pris, j'ai fait comme, OK, je vais le recevoir bientôt, fait que j'aurais pas à attendre longtemps. Mais ce qui est le fun avec Kickstarter, c'est qu'on peut aller voir les commentaires, même si ça fait pas partie de la campagne. Et là, je dois vous avouer encore une fois qu'on vit pas, je veux pas encore partir le jingle de la controverse de la semaine, mais c'est encore pathétique. Et, le Canada est encore le dernier pays qui va recevoir le jeu. Et je le sais que c'est pas le cas pour tous les jeux. Puis que souvent, on va vous parler de ceux-là, mais c'est parce que c'est tous les jeux que, je pense, Martin et moi, on se sous-finance. Les jeux qu'on attend avec impatience, ben, on les reçoit tout simplement pas. En fait, on les reçoit à la fin de tout le monde. Puis, je le répète encore une fois, puis je veux que vous compreniez très bien. Oui, on est impatient parce qu'on est des gens passionnés. Okay? Oui, moi, j'en back beaucoup moins de jeux que j'en backais. Fait que, quand je reçois un jeu, j'ai une certaine excitation de recevoir ce jeu-là. Mon excitation, elle est forte. Puis, j'aime ça, cet engouement-là. Je dois avouer qu'au niveau de socio-financement, j'aime ça, cet engouement-là, de savoir que tu as un jeu qui s'en vient par la poste, de le suivre. C'est un élément de société, ça, d'avoir une expédition, un numéro de suivi. Moi, j'ai une petite application qui me permet de suivre. Puis là, quand il arrive à la maison, tu retrouves la boîte, puis tu vois la boîte, et là, tu es émerveillé devant le jeu que tu as acheté ou que tu as socio-financé. Sauf que malheureusement, quand tu as une chaîne YouTube, on l'a dit souvent, là, c'est pour Martin et moi, ben on se sous-finance des jeux, puis encore une fois, on ne fait pas ça que pour ça. Hein, on ne fait pas ça que pour avoir des views, comme on dirait en bon français. Mais c'est le fun, des fois, de présenter des jeux qui vont créer un buzz. C'est le fun. Mais là, depuis quelques années, on n'en reçoit plus de jeux qui vont faire des buzz, parce que le Canada est toujours le dernier pays à recevoir les jeux, pendant que les États-Unis, l'Europe, l'Australie, l'Asie, tout le monde reçoit les jeux avant nous. Les vidéos sont déjà faites, puis des fois, ça fait des mois que la vidéo est faite par d'autres personnes, Et là, tu reçois le jeu, tu fais une vidéo, puis là, ben, tout le monde a déjà et tout le monde a déjà, dans le fond, reçu le jeu, puis sont en train de jouer, puis ils ont plus besoin de ta vidéo pour ça. Fait que c'est pas grave, on vit avec ça, puis on vit très bien, mais des fois, notre impatience, peut-être sur la chaîne YouTube, dites-vous qu'elle est teintée un peu de cet élément-là, que peut-être d'autres personnes n'ont pas. Puis là, ben, Voidfall n'arrive pas au Canada. Et là, je suis en train de voir ici David Ganong qui, il y a 5 heures, au moment où j'enregistre ça, écrit Any word for Canadian backers? Et là, comment Clash Games qui répond As we mentioned in the comment below, we are currently clearing and discussing the current situation with Whale Backer, trying to get an honest and viable update and timeline from them. We hope to sort everything out by tomorrow and inform you in an update. Thanks in advance for your patience until then. Fait que c'est pas la faute à Mindclash Gang, mais c'est la faute à une compagnie qui s'appelle Whalebacker. Puis on en a parlé la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant. Là. Fait que je reviendrai pas sur toute l'histoire, mais Whalebacker, c'est eux autres qui ont reçu les containers nord-américains. Mais encore une fois, l'aspect ridicule, qu'il va falloir que des compagnies comme Mindclash Game pour le Canada qui finissent par se dire, c'est que le container arrive à Vancouver, qui est au Canada, le container traverse la frontière pour s'en aller aux États-Unis dans la compagnie de shipping qui s'appelle Whalebackers, qui vont prendre une partie de la commande de leur container pour les gens qui vivent aux États-Unis et qui vont re-shipper au Canada les jeux. Donc, le jeu traverse la frontière deux fois et pour s'en aller probablement, parce que Whalebackers est une compagnie américaine et j'ai l'impression que Whalebackers doivent envoyer ça à un autre distributeur canadien qui va s'en occuper. Alors, pourquoi ne pas directement envoyer le container? Bon, là, vous allez me dire que probablement que dans un seul container, il y avait assez de jeux pour le pendant américain. Puis le pendant canadien, je suis d'accord probablement que c'est peut-être ça la réponse, mais je trouve que pour nous autres, le Canada, on finit toujours par être les derniers sur la liste à cause de cette relation-là qu'on a avec les États-Unis et parce qu'on envoie les jeux directement dans un container qui va en Amérique du Nord et qui doit retraverser deux fois la frontière pour justement sauver du shipping. Alors, c'est pas la faute de Mindclash Games, hein. Puis je le répète encore une fois, c'est une situation qui frustre de plus en plus les gens. Et puis, je vois les commentaires, tu vois toutes les affaires comme on a reçu en Allemagne, on a reçu au Royaume-Uni, on a reçu en France. Merci beaucoup, c'est super cool. Puis après ça, ben, t'as les gens qui disent, est-ce qu'il y a quelque chose au Canada? On n'a aucune. Parce que la problématique, c'est tout le temps la même chose. Puis on l'a dit. La semaine dernière, la transparence. Tout est une question de transparence. Comme là, Mindclash Gang disent, on va prendre des informations puis on va vous revenir de là-dessus demain. Mais ça fait 2 semaines qu'ils nous ont dit que le shipping au Canada allait commencer au début de la semaine d'après. Ça fait 2 semaines qu'ils disent qu'on soit un message en disant, faites-vous-en pas, le Canada, ça va commencer au début de la prochaine semaine. Puis ça marche pas. À ce moment-là, ils devraient avoir un courriel juste pour nous dire, hey, on ne sait pas ce qui se passe, on vous revient le plus rapidement possible. C'est peut-être beaucoup de travail, mais ça va apaiser les gens. Et je ne sais pas pourquoi les compagnies attendent si longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup d'impatience. Puis je sais que mon ami Patrick Aymon qui va dire, hey, Patrick, je suis sûr que tu écoutes ça, puis tu me dis encore une fois le même sujet, mais c'est parce que Patrick, lui, il va vous dire qu'il faut être patient, mais je l'ai dit à Patrick, lui, il reçoit à peu près 4 socio-financements par mois parce qu'il back beaucoup, puis tu sais, Patrick, que je te respecte énormément parce que tu m'en envoies une bonne partie de ces jeux-là, mais en même temps, moi, de mon côté, j'en reçois de moins en moins et j'ai quand même payé un très gros montant à la boutique pour avoir le jeu, donc je m'attends à le recevoir. Je vais le recevoir. Puis à ce moment-là, on va oublier toutes nos frustrations, mais ça recommence tout le temps. Fait qu'il y a Voidfall que j'ai hâte de recevoir, puis j'ai hâte de jouer, puis de vous en parler. J'espère que le jeu va être bon. Et ce que je trouve intéressant de ce 4X-là, c'est qu'il y a un solo. Mais le concept du jeu 4X mélangé avec un euro, je dois vous avouer que je trouve ça quand même assez intéressant. Et je vais. Ben, c'est ça. Hein? Je vous dirais que je vais être à l'affût pour justement y jouer puis vous en reparler dans un podcast avec Martin parce que j'ai l'impression que je ne recevrai pas ce jeu-là tout de suite. Moi, je pense que là, voyez-vous, là, on est à la fin du mois de septembre. Moi, d'après moi, je vais le recevoir milieu du mois d'octobre, fin du mois d'octobre. Autre jeu qui se fait aussi beaucoup attendre dans le socio-financement, c'est 20 Strong. C'est un petit peu fâchant, je vous dirais, 20 Strong, parce que encore, puis c'est la compagnie, vous savez que c'est la compagnie que j'adore, qui s'appelle Chip Theory Games. C'est une compagnie qui je peux pas vous dire à quel point vous savez à quel point je l'aime beaucoup, même si j'ai été fâché un petit peu. Mais 20 Strong, qui est un jeu qui m'a été gracieusement offert par Benjamin Morino, qui est un fidèle auditeur de ma chaîne. Et je le remercie vraiment beaucoup, 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 beaucoup là, de ça. Puis ben, c'est sûr que moi aussi, j'étais un peu hype, comme on dit en bon français, de ce jeu-là. Mais la problématique, encore une fois, de 20 Strong, c'est pas nécessairement le manque de transparence de la compagnie, parce que ils sont corrects là, en général. Okay? C'est juste que Chip Theory Games, ils nous ont dit dernièrement qu'ils allaient tester quelque chose de nouveau. Puis écoutez, de ce que j'ai compris, là, j'essaie de retrouver justement, j'essaie de retrouver leur dernière. Je ne suis pas capable de trouver 20 Strong, malheureusement. Mais en tout cas, je vais essayer d'y aller de ce que je suis, de ce que je sais par rapport à ce jeu-là, là, par rapport à l'expédition. Mais Chip Theory Games voulait, je pense, essayer une nouvelle façon. Plutôt que le jeu passe par bateau, soit envoyé par bateau, soit envoyé directement, parce que c'est des plus petites boîtes, directement par avion, je pense. Et que c'est un shipping direct. Donc, ça part de la Chine jusqu'à votre maison. Et là, quand ils nous ont annoncé ça, écoutez, je veux dire, mettons, je dis au mois de juillet, là, ou au moins, même je pense qu'il avait ça, c'était au mois de juin, il avait annoncé ça. Il avait dit quasiment, vous allez voir, au milieu du mois d'août, fin du mois d'août, vous allez avoir votre jeu. Puis ça va aller super vite, puis on teste ça, puis ça coûte pas plus cher, bon, blablabla, blablabla. Bla. Mais on l'a toujours pas reçu. Là, quand je dis on l'a pas, c'est personne l'a reçu. Parce que là, c'est un shipping, tout le monde ensemble. Là. Tout le monde va Tous les jeux vont être envoyés en même temps, donc tout le monde devrait recevoir. J'ai hâte de voir combien de paquets vont être perdus dans ce système-là, mais tout le monde est supposé le recevoir en même temps. Fait qu'il n'y a pas, je pense, une question de pays, là. Ça va tout partir en même temps. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme façon de faire. Mais on n'a toujours rien reçu. Et là, ils ont fait une nouvelle mise à jour la semaine dernière pour dire, ben, ça va pas aussi bien qu'on pensait. Fait que c'est pas encore de leur faute, mais c'est encore une promesse. Qui a été laissé de côté. Et tout ça, c'est ça que je pense qu'on disait un peu la semaine passée, c'est que ça crée des frustrations, puis c'est des frustrations qui sont causées par eux autres mêmes, parce qu'ils nous disent, ah, vous allez voir, ça va aller plus vite, puis finalement, on ne les reçoit pas plus rapidement. Bon, écoutez, c'est la vie. Comme je vous dis, de mon côté, j'attends le jeu avec une certaine appréhension, je vous dirais. C'est un jeu de dés, hein, ils ont décidé de faire quelque chose de différent. Les critiques des Américains qui ont reçu le jeu au Gen Con, donc des créateurs de contenu, semblent être très positifs. Mais en tout cas, on verra bien là, comment les choses vont aller pour ce jeu-là quand je vais le recevoir un petit peu plus tard. Puis un jeu qui arrive un peu de nulle part, je dois vous avouer, c'est le jeu Tamashii. Chronicle of Ascend. Et ça aussi, je suis très, très content parce qu'on a reçu justement un nouvel update, donc une mise à jour le 18 septembre dernier, donc il y a quelques jours au moment où j'enregistre ceci, pour dire que ben ça devrait arriver. Le jeu, donc c'est un jeu Tamashii Chronicle of Ascend qu'on avait parlé sur le podcast ici. Puis Martin puis moi, on en avait parlé, puis j'avais backé le jeu. C'était un Awaken Realm Lite. Je l'ai pris en anglais, évidemment, parce que les Awaken Realm, oubliez ça, je prendrai jamais les jeux en français. Je sais que c'est important, le français, mais là, ça me tente pas de recevoir le jeu dans 3 ans. Puis, je pense que, bon, Awaken Realm Lite, souvent, je me disais, OK, c'est des plus petits jeux. Sauf que c'est un jeu qui arrive quand même dans une grosse boîte, puis c'est un jeu de type cyberpunk. C'est un jeu avec de la programmation. Mais tu sais, je dis pas que c'est un jeu de programmation, mais il semble avoir toute cette histoire-là de hacking comme dans Cyberpunk 2077. Et là, la dernière fois qu'ils nous ont parlé, ils nous ont dit « On est content pour vous dire que tous les containers sont dans leur boîte puis vont être envoyés très, très bientôt. » Puis même qu'ils disent qu'aux États-Unis, la première batch est déjà arrivée et la deuxième batch va probablement arriver à Tacoma le 19 septembre. Donc, devrait être arrivé depuis 2 jours au moment où j'enregistre ceci. Fait que ça, c'est une bonne chose. Là, je me disais, ah, cool, cool, cool. Et là, après, si tu arrives à Canada, c'est écrit « The vessel is on its way and is expected in Vancouver on the 26th of September. » Puis là, je peux cliquer sur un bouton. Ça me fait toujours rire. Je peux cliquer sur un bouton pour savoir où il est rendu. Et là, quand je regarde ici où il est rendu, il est en plein milieu de l'océan. Ça, c'est super cool. On dit que c'est écrit « The vessel is out of range ». Donc, j'imagine qu'il va continuer ça me fait rire ce qu'on est rendu. C'est écrit ici, OK, j'allais. Ici, c'est écrit que il devrait arriver le 30 septembre. Donc, déjà 2 petites journées de retard pour le 30 septembre. Donc, par rapport à ce que si c'est écrit le 26 of September, ben, il y a 4 petits jours de retard. Fait que on va attendre, puis après ça. Il faut qu'ils prennent le train jusqu'à Toronto. Donc, Toronto, je pense, c'est Snakes and Latte qui vont peut-être s'occuper du shipping. Ou c'est Asmodée. Ça doit être Asmodée, en fait. Ça doit être le Lion Rampant. Je pense qu'ils ont des ententes avec Lion Rampant pour ce qui est de... Puis après ça, on devrait l'avoir. Ils disent première moitié d'octobre. Moi, je penserais plus deuxième moitié d'octobre. Mais peu importe, ça, je suis content parce que je l'attendais pas aussi vite. Puis, ça a l'air cool comme jeu. J'ai pas encore vu... de partie avec la nouvelle édition. Ben avec l'édition terminée. Fait que je vous dirais que j'ai assez hâte de voir comment tout ça va. Ça va être un bon jeu, ça sera-tu pas un bon jeu? Ça va l'air intéressant. Ça avait été sur un coup de tête que j'avais fait ça. Mais voilà. Fait que ça, c'est pour le jeu Tamashii. Et voilà. J'ai quasiment fini mon introduction. Juste pour vous dire que je pensais pas que ça allait encore une fois me prendre autant de temps pour faire l'introduction. La dernière chose que je veux vous parler, si je suis capable encore de vous parler, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais pu la voix. C'est Unsettled. Je veux vous en parler parce que c'est nos amis de chez Lucky Duck Game. Alors, Lucky Duck qui vont nous sortir encore un game on tabletop que je trippe pas le fait que ce soit game on tabletop pour nous autres nord-américains. Ça semble toujours un peu compliqué. Je pense qu'ils ont toujours des ententes avec le Randolph. J'imagine que c'est la même chose, encore une fois, ici. Mais le 26 septembre prochain, à 18h heure d'Europe, sur Game on Tabletop, c'est le jeu Unsettled, en français, donc version française, une collaboration avec Orange Nebula. Est-ce que vous devriez être excité de ce jeu-là? Je sais que je parle de ce sous-financement avant, mais c'est parce que je veux quand même vous en parler de ce jeu-là, parce que je l'ai depuis très longtemps. Moi, j'ai la version anglaise et j'ai remarqué que j'avais toutes les boîtes de la première campagne de ce sous-financement. J'ai toutes les planètes. Puis je pense que quand j'avais pris le jeu, je l'avais pris dans un magasin avec 2 autres planètes. Et je pense que je me suis fait venir, donc j'avais 1, 2, 3, 4, et là j'ai 5, 6. Je me suis fait venir 2 autres planètes par la suite. Et je pensais qu'il y avait 4 ou 5 autres planètes dans la deuxième version, mais je pense qu'il y en a juste 2, parce qu'il y a eu une deuxième campagne de sous-financement. Mais la version d'Unsettled, c'est la version du jeu de base. Donc, dans lequel il y a 2 planètes et 4 planètes supplémentaires que vous pouvez acheter. Et pour ceux qui connaissent pas Unsettled, on en a déjà parlé sur la chaîne, donc de ce jeu-là. Martin, je pense qu'il en a fait un de ses meilleurs jeux de l'année passée, parce que je lui avais passé ma copie. Et moi, ben, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Unsettled, c'est un jeu qui fonctionne avec un système de cartouches. Prenez ça comme étant des cartouches de la Nintendo, où vous avez une boîte de base qui est rectangulaire, qui est faite avec des game trays. Et cette boîte-là vous permet de placer facilement le jeu, mais qui prend vraiment beaucoup de place d'ailleurs, ça c'est un des côtés négatifs. mais de placer le jeu et ensuite de ça, vous insérez une cassette, donc une planète. Et chacune des planètes que vous allez avoir va avoir trois missions avec les mêmes cartes. Mais ces trois missions-là sont très différentes et vont faire en sorte que l'interaction avec les cartes vont être différente. Et c'est ce qui fait que ce jeu-là est quand même rejouable. C'est pas un jeu Legacy, c'est pas un jeu où on va... Oui, il y a des surprises, là. Il y a des cartes des fois qui sont... Oui, il y a un élément de surprise qu'on a pu après notre première partie. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu de totale exploration. Donc, on se promène avec nos explorateurs et Luna, qui est notre compagnon robotisé. On se promène sur une planète et le but, c'est d'apprendre à apprivoiser cette planète-là. En découvrant des tuiles, c'est pas des tuiles, c'est des cartes, là, mais en découvrant des cartes, en faisant des découvertes, il y a beaucoup d'interactions. C'est un jeu qui est coopératif. Il y a beaucoup d'interactions qui fonctionnent avec un système de cubes qui est un peu spécial, où des cubes sont en forme de dés, mais c'est pas des dés parce qu'on les lance pas. Les cubes représentent des charges, on va dire, là, donc une charge, deux charges, trois charges. Puis à chaque fois que tu fais une action, tu utilises un de ces cubes-là, tu en as trois sur ton plateau personnel pour faire des actions et l'action va faire diminuer, augmenter ta charge. Puis quand tu n'as plus assez de charge, bien, c'est là que ta fatigue augmente, le temps augmente, je veux dire. Puis on peut éventuellement avoir une fatigue, perte de l'endurance, puis nos explorateurs peuvent ne pas réussir la mission. Unsettled, c'est un jeu d'extraordinaire qualité. J'espère vraiment que Lucky Dog Games vont prendre le temps de bien le traduire en français. C'est un jeu qui a quand même beaucoup de textes. C'est un jeu qui a des textes sur les cartes. C'est un jeu qui a du texte sur des petites cartes de découverte. Le livret d'instruction, il est quand même assez bien fourni. Chacune des planètes vient avec un petit livret d'instruction. Faut pas rater cette traduction française-là. Et c'est un véritable bonheur. Puis je vous le dis, là. Je vous le dis, je sais que Lucky Dog Games a demandé à beaucoup de créateurs de contenu. Vous allez voir Martin Montreuil faire une vidéo. Vous allez voir moi qui ai fait une vidéo. Puis moi, la seule chose que j'ai demandé pour faire ma vidéo, c'est pas de l'argent. Je veux avoir la version française parce que je veux jouer en français à ce jeu-là. Puis moi, ben ce jeu-là, je l'ai déjà. Fait que pour Lucky Dog Games, souvent, c'est le fun de demander à des Nord-Américains qui ont déjà le jeu en leur possession parce qu'ils n'ont pas besoin de me l'envoyer. Fait que c'est toujours mon avantage que j'ai, étant donné que j'ai des jeux anglophones et que Lucky Dog Games sont forts pour faire des traductions. Alors, ils m'ont souvent demandé de faire des petites vidéos et c'est une des choses que je dois d'ailleurs faire au moment où j'enregistre ceci pour mardi prochain, parce que le 26, c'est mardi prochain. Mais regardez comme il faut la vidéo de Martin. Vous regarderez, moi, j'ai une partie filmée sur ma chaîne. Je vais faire une autre petite vidéo pour vous présenter le matériel, puis un petit peu vous parler du jeu. Allez voir aussi tous les autres créateurs de contenu qui vont avoir fait du contenu sur ce jeu-là. Prenez une décision intelligente. Est-ce que vous voulez backer Unsettled en français? Moi, je vous dirais que ça en vaut la peine parce que c'est un excellent jeu. Et Martin, lui a, je pense, peut-être que je me trompe, mais Martin, il a décerné son numéro 1 l'année passée pour son top 10 des meilleurs jeux de l'année 2022. Je pense que c'est Unsettled. Je me trompe peut-être, là, mais c'était quand même un très haut placé. Et on n'avait pas vent que Lucky Dog Games allait faire une traduction française à cette période-là. Fait que voilà, ben, c'est bien parti. C'était mon introduction pour le podcast. Alors, je vous dirais qu'on va passer maintenant à la deuxième partie de cet enregistrement-là, puis on va y aller avec nos expériences ludiques. Et je n'ai pas malheureusement pas les transitions de Martin, j'ai juste le début puis la fin. Fait que je peux pas nécessairement mettre une transition, mais que je pourrais faire une petite transition audio avec une petite musique. Hein? Alors, je vais vous parler rapidement donc de mes expériences ludiques dans quelques instants. Ben, c'est ça, hein? Mes expériences ludiques, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, j'en ai parlé avec Martin. Malheureusement, je suis dans une Je ne sais pas si vous vivez ça, vous autres aussi, des fois. J'écoutais Don, qui est un des founders de Secret Cabal, qui disait que... puis Don est probablement un des plus grands passionnés de jeux de société de la gang de Secret Cabal. Ce sont tous des passionnés. Jamie, qui est l'animateur du podcast, c'est un très, très grand passionné, mais Don, il back tout. Là. Lui, si vous écoutez le podcast, vous allez voir, c'est un... Il doit avoir au-dessus de 500, 600, 700 jeux dans sa maison. Il est vraiment très passionné. Puis je l'écoutais justement dans le dernier podcast, puis il disait à un moment donné que il y avait eu un moment à vide, là, puis qu'il avait été un mois sans toucher à aucun jeu de société. Puis est-ce que c'est votre cas? Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir un certain passage à vide? Puis je vous dirais que je suis étrangement dans un passage à vide, mais c'est un passage à vide qui est comme obligé. Pour des raisons que je reviendrai pas encore, là, mais c'est un passage à vide qui est vraiment une conséquence directe de ma rentrée scolaire et de ma fatigue. Puis tu sais, avec tous les autres éléments qui se passent dans ma famille aussi. Là, puis c'est là que je me rends compte qu'un jeu de société, c'est demandant. C'est plaisant, c'est le fun. C'est une super belle activité. Mais quand tu joues à un jeu de société convenablement, puis là, je parle pas d'un jeu de party, mais un jeu de société, comme par exemple Woodcraft, que je vais vous parler dans quelques instants, c'est des jeux qui sont demandants, intellectuellement parlant, puis souvent, on sort de là fatigué. Puis ces temps-ci, quand j'arrivais le soir, m'installer pour jouer à des jeux de société, ça me tentait un peu moins. Puis je trouve que jouer à un jeu vidéo, c'est moins demandant intellectuellement. On pourrait faire un débat là-dessus, là. Ça dépend du jeu, mais c'est moins demandant. Puis tu peux facilement, je pense, beaucoup plus relaxer. Je ne dis pas qu'on relaxe pas en jouant à des jeux de société, mais c'est beaucoup plus relaxant, je pense, jouer à un jeu vidéo. Donc, puis j'en ai plein de jeux là, qui me tentent de jouer. Là. J'ai Descent, que je veux finir ma campagne pour pouvoir essayer l'extension que j'ai en ma possession. Que j'ai d'ailleurs mis tous les jetons dans des game trays que vous pouvez vous acheter en magasin, des petites game trays carrées. Puis j'ai tout acheté ça pour mettre ça dedans pour justement les ressortir rapidement. J'ai pas eu le temps depuis que j'ai recommencé l'école. J'ai reçu plein de nouveaux jeux. J'ai Weather Machine, le moment donné que j'ai regardé, j'ai dit « Ah, ça me tenterait de faire une vidéo. » Castle of Burgundy, que je vais vous parler dans quelques instants, que j'ai regardé longtemps. Mais finalement, la semaine dernière, j'ai joué une partie en solo. Mais en fait, j'ai joué plusieurs parties en solo de Woodcraft, de la compagnie Delicious Games, qui est un jeu de 1 à 4 joueurs, qui est designé par Ross Arnold et Vladimir Succi, quand même, qui sont pas des petites pointures. Au niveau artistique, c'est Michael Page ou Pitchell. C'est un jeu qu'on dit qui dure de 60 à 120 minutes de 12 ans et plus, qui est 3,85 sur 5 sur Board Game Geek pour ce qui est de sa complexité. Woodcraft, je trouvais ça important de vous en parler aujourd'hui dans mes expériences ludiques parce que c'est un jeu qui, selon moi, passe totalement sous le radar. C'est un jeu de type euro, de sélection d'action. Où on va gérer des ressources. Okay? Il y a quand même pas énormément de ressources. Puis je vous dirais que c'est tout un monde que je connais moins. Ok, je suis pas un ébéniste. Hein, disons-le, le moi, mais la vie et mon père a toujours eu l'optique de il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider à faire des choses. Donc, à la maison, mon père a jamais été très manuel. Donc, j'ai pas développé vraiment ces aptitudes-là de gosser du bois ou bien de faire des réparations à la maison. J'essaie là, un petit peu. Je me souviendrai toujours, Hélène, quand on a peinturé les chambres des enfants. Moi, j'étais prêt à payer pour qu'on fasse venir un peintre. J'aime pas ça, faire ça. J'ai pas de passion là-dedans. Au grand désarroi de mon beau-père, le père à Hélène, qui lui a construit une maison de ses propres mains. Puis je pense qu'il aurait bien aimé que son beau-fils soit aussi calé que lui dans le bois. Fait que moi, ce jeu-là, que j'ai en français d'ailleurs, que j'ai la version française du jeu, moi, des chutes de bois, je comprends pas encore vraiment c'est quoi, mais je comprends la mécanique du jeu. On a des jetons qui représentent de la colle, on a des jetons qui représentent des lames de scie. C'est un jeu qui tourne vraiment autour du bois, et ce qui est très caractéristique, c'est que la ressource principale, c'est des dés en bois. Et le but du jeu, c'est de construire de faire des commandes, donc d'accomplir des commandes. On accomplit justement donc ces fameuses commandes-là. On va les accomplir en utilisant des dés que l'on va prendre soit dans un marché qu'on va faire pousser, là, restez avec moi, là, parce que oui, on peut faire pousser du bois dans le jeu-là. Dans le fond, c'est de faire augmenter la valeur des dés. Puis, par exemple, une des commandes que vous pourriez avoir, c'est une raquette de tennis en bois. Qui thématiquement aucun bon sens. Là. Mais tu sais, la raquette de tennis prend un des jaunes de niveau 5, donc avec 5 de valeur, puis deux des verts avec 1 de valeur. Puis les dés ont une certaine importance. Donc, le dé vert, celui qui vaut le moins. Après ça, je pense que c'est le dé jaune et c'est le dé brun qui est le. Il y a trois couleurs de dés. Puis, ce qui est très cool dans ce jeu-là, c'est que tu peux prendre des dés, mettons un dé de valeur 5, et avec des actions gratuites, tu peux utiliser les scies que tu vas mettre sur ton plateau personnel. Tu commences la partie avec une scie pour couper, dans le fond, le dé. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe la valeur. Donc, si tu as un 5 et que tu as besoin d'avoir un 3, ben, tu vas couper ton 5 pour que ce soit un. Donc, tu te ramasses avec un dé de la même couleur, de valeur 3, et un dé de valeur 2. Donc, il y a vraiment un genre de comment dire, de puzzle qui s'installe par rapport à la valeur des dés. Puis tout ça, évidemment, c'est en utilisant une sélection d'actions qui est sur un plateau central à roulette. Puis lorsqu'on va prendre la fameuse action qui est une tuile, ben, dépendamment où on va prendre cette tuile-là, il va avoir un bonus d'associé à la tuile. Puis après ça, on va aller, il y a comme quatre cadrans de couleurs différentes, des cadrans de sept, c'est ça, c'est sept, parce qu'il y a sept actions qu'on peut prendre dans le jeu. Donc, il y a quatre cadrans de sept cases. Puis quand on prend une action, dans le fond, c'est qu'on la prend et on la transfère dans le cadran suivant à la suite de la dernière action. C'est sûr qu'encore une fois, c'est difficile si vous ne le voyez pas. Mais c'est ce qui fait en sorte que étant donné que c'est une roulette, à un moment donné, on va dépasser une flèche, une petite flèche verte, et on va tourner la roulette, et ça va dévoiler de nouveaux bonus. Mais en tout cas, dites-vous que c'est un jeu de sélection d'actions, dont le but, c'est d'optimiser tes actions dans ta gestion de ressources pour faire des commandes, pour ramasser des points, et donc d'avoir le plus grand nombre de points. Ce qui est important aussi dans ce jeu-là, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des assistants qui vont venir dans notre établi pour nous aider. Et des assistants vont venir avec tout plein d'habiletés spéciales. Ils veulent se faire payer en baie. Donc, quand on engage l'assistant, il faut lui donner dans l'argent dans ce jeu-là, c'est des bleuets, des baies sauvages. C'est ça. C'est comme ça, c'est la vie. Puis chacun de ces assistants-là vont avoir des bonus qui peuvent être des bonus immédiats, des bonus quand on fait telle action, mais ils vont aussi permettre une production dépendamment des actions qu'on va prendre. Ils vont nous donner certains types de ressources, vont donner des baies, vont donner de la colle, bon, etc., etc. Et vous comprenez que colle, c'est parce qu'on peut prendre deux dés puis coller les chiffres ensemble. Genre, mettons, j'ai un dé rouge, ça n'existe pas. Un dé brun, puis un dé jaune. J'ai un dé brun de valeur 3, puis un dé jaune de valeur 1. On peut mettre de la colle pour faire 3, 1, donc un 4. Puis là, on choisit de quelle couleur qu'on veut que le dé soit, mais ça nous fait perdre un dé, dans le fond, en faisant ça. Tout ça dans le but d'accomplir des contrats. Et les contrats, lorsqu'on va les accomplir, lorsqu'on va les faire, c'est des actions gratuites, on va ramasser des bonus. Les bonus peuvent être de l'argent, les bonus sont des points, des bonus, ça peut être des outils qu'on va mettre sur notre plateau personnel dans une genre de pyramide qui va débloquer d'autres bonus. Bref, je sais pas si vous comprenez, c'est un jeu qui est vraiment cool. Et c'est un jeu qui se fait en 14 rondes. Et à chaque ronde, on fait une seule action, mais autant d'actions gratuites que l'on veut. Puis les actions gratuites sont quand même multiples, mais ce que je veux dire, c'est que les 14 actions, c'est les actions que l'on retrouve dans le plateau principal, dans la roulette. Donc, on joue 14 fois dans la partie. Et laissez-moi vous dire que c'est une optimisation incroyable de c'est un jeu qui est définitivement prompt à la paralysie d'analyse. Ça, je vous le dis tout de suite, là. Si vous avez des amis qui sont qui ont tendance à ça, là, cette fameuse ce concept de paralysie d'analyse, parce que qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Est-ce qu'il faut que tu aies acheté un dé pour accomplir des contrats? Parce que tes contrats, il ne faut pas oublier qu'à la fin de la partie, si tu les as pas fait, tes contrats, tu perds 2 points de comment on les appelle? C'est des points, pas d'aptitude, mais c'est de la réputation. On perd 2 points de réputation. Puis à la fin de la partie, plus ta réputation est élevée, plus tu vas te faire des points bonus en fonction du nombre de contrats que tu vas avoir accomplis. Fait que je ne sais pas si vous comprenez tout ça, là, mais ça fait un mélange. En plus d'améliorer notre établi, on peut racheter des scies, on peut racheter des endroits pour utiliser de la colle, des chutes de bois. Les chutes de bois, c'est vraiment une ressource pour augmenter la valeur d'un dé concrètement, directement, en rajoutant du bois dessus. C'est comme ça que j'ai compris. Ce jeu-là, il est littéralement brillant. Je vous le dis tout de suite, là, c'est une de mes belles surprises de 2023. Je lui ai joué uniquement en solo, mais malgré tout, là, malgré le fait que j'y ai joué uniquement en solo, le solo, c'est pas les solos que j'aime. C'est un solo qui bat ton propre score. Et pourtant, il y a un automa. C'est ça que je trouve tellement à plat de ce jeu-là. C'est qu'il y a un automa dans le jeu et on aurait pu facilement faire en sorte que l'automa fasse des points. Parce que oui, à son tour, l'automa, on va piger une carte puis il va dire quelle action qui bouge. Et cette action-là, en bougeant, ben premièrement, ça enlève des bonus de cette action-là. Ça peut faire tourner la roue. Et il va aussi aller enlever des commandes qu'on peut aller chercher dans un marché. Et il va aussi aller enlever des assistants qu'on peut aller chercher dans un marché. Donc, c'est un automa qui est vraiment super bien fait, mais il donne pas de points. Le seul élément qui comptabilise les points, c'est pour la réputation, parce qu'à certains endroits, sur la piste de réputation, on peut aller chercher un bonus. Et ce bonus-là va nous donner justement des points supplémentaires. Mais donc, c'est un excellent, très, très, très bon solo. Mais malheureusement, c'est un beat your own score, donc bat ton propre score. Mais en multijoueur, ce jeu-là doit être vraiment exceptionnel. J'ai pas eu la chance d'y jouer, mais je vous le recommande vraiment fortement. Si vous aimez les jeux de gestion de ressources, si vous aimez les jeux de sélection d'actions, si vous aimez réfléchir dans un jeu de société, Woodcraft, moi, je suis pas un grand fan de ce thème-là, mais j'aime ça, moi, accomplir des commandes. J'aime ça, des gestions de ressources. Donc, ce jeu-là cochait toutes les cases. Et notre ami Jean-Philippe Auclair, donc JP de La Pioche, l'avait nommé comme étant son coup de cœur du mois d'août, je pense. Il avait dit que c'était vraiment très bon. Et moi, je trouve que ce jeu-là passe littéralement sous le radar. Fait que je trouve ça un petit peu dommage. Et je vous conseille fortement d'aller faire un petit tour justement sur chez votre détaillant préféré pour trouver Woodcraft. Il y en a présentement des Woodcraft disponibles à la boutique La Pioche. Ils sont malheureusement uniquement en anglais. Il n'y a pas de texte sur les cartes. Il n'y a pas de texte non plus sur les plateaux. Donc, c'est un jeu qui est complètement indépendant de langage, sauf pour le livret d'instruction et le livret d'aide de jeu. Fait que dites-vous que si au Québec, là, vous cherchez le jeu, il est disponible à La Pioche en version anglaise, mais une version française existe également. Fait que Martin, à quoi Ah non, c'est vrai, Martin n'est pas là. Fait que je peux pas passer à lui. C'est pas mal le seul jeu que j'ai joué cette semaine. Je vais quand même très rapidement vous parler de Castle of Burgundy parce que c'est un jeu qui est que je pense la majorité des backers sont en train de le recevoir en français. Et je pense qu'au Québec, c'est la même chose, là. Donc, c'est le jeu Castle of Burgundy, l'édition spéciale de la compagnie Awakened Realms. Et je dois vous avouer qu'Awakened Realms, c'est une bonne compagnie. J'ai pas beaucoup aimé Tainted Grail. Je continue de dire que Tainted Grail est probablement, selon moi, un des pires jeux c'est un des pires bons jeux qui existent parce que le jeu, il est excellent, mais Colin, qui était trop difficile. Mais tout le reste de ce que Awakened Realms font depuis quelque temps, je trouve qu'ils font une méchante bonne job en général. Et là, ben, je vais vous parler de, très rapidement de Castle of Burgundy parce que je n'y ai pas joué encore. J'hésite justement à l'apporter avec moi au délirium ludique. Je ne sais pas s'il y en a qui vont vouloir jouer. Moi, Castle of Burgundy, j'adore beaucoup le jeu. C'est un jeu qui est quand même très, très simple. Hein. C'est un jeu où on lance des dés, puis avec ces dés-là, ben, on fait des actions. Les actions qu'on peut faire, c'est soit d'aller chercher des tuiles sur un marché public en fonction du chiffre que l'on a sur le dé, ou on va placer une des tuiles qu'on a dans notre réserve sur notre propre plateau qui répond à des critères qui sont bien précis, là, comme genre la majorité du temps, il faut que ce soit adjacent à un autre. Le jeu est un de mes jeux favoris que j'ai joué de tous les temps avec Hélène. On a joué beaucoup à Castle of Burgundy, que j'avais en édition originale de la compagnie Alea, et qui est une édition littéralement d'une laideur incommensurable. Mais cette laideur-là ne nous empêchait pas à jouer au jeu, au jeu de plateau. Puis, j'ai pas pris, moi, le 20e anniversaire parce que j'en avais entendu parler. Puis, honnêtement, le 20e anniversaire, les gens avaient pas trippé sur cette version pimpée, si on voudrait dire, de Castle of Burgundy. Fait qu'à Awaken Realm, eux autres, ils ont pris le concept puis ils l'ont transféré, multiplié par 1000. Où là, ils ont fait vraiment des plateaux double couche. Ils ont fait des beaux dés. Ils ont fait des figurines que moi, j'ai pas. J'ai seulement les figurines des châteaux. Ils ont fait des tuiles en acrylique que j'ai pas non plus, mais ils ont refait les éléments artistiques des tuiles. Les plateaux double couche, on peut mettre un genre de petit plastique dessus pour que les tuiles bougent pas. Ils ont mis toutes les extensions au grand complet, en plus d'ajouter une extension qui s'appelle Vignoble. Et donc, c'est un jeu que je veux présenter sur ma chaîne. Je veux présenter les deux versions solo parce que un des éléments qui est le plus intéressant, je trouve, de Castle Burgundy, c'est le fait qu'il vient avec une nouvelle version solo qui aurait été faite par M. Turgzy, je pense, et qui, je me trompe peut-être, là, mais je pense bien que c'est David Turgzy qui l'a fait, qui fonctionne avec un château-mât, et qui nous permet de jouer contre un opposant virtuel. Et vous pouvez jouer également à deux ou trois joueurs avec Château-Mât pour faire une partie à trois ou quatre joueurs si vous avez moins de joueurs que ce nombre-là. Et je regardais la version solo originale. Elle était quand même pas si mal, la version solo originale, qui venait avec des plateaux qui sont différents, là, qui étaient vraiment juste pour le solo. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai lu les instructions et ça m'a rappelé comment des fois, quand tu lis des livrets d'instructions, qui est quand même un bon livret, là, parce que j'ai tout lu au grand complet, là, le livret. Là. Je me suis intéressé à... Ben, en fait, je voulais le présenter sur ma chaîne jusqu'à temps que je me souvienne qu'il fallait que je présente Unsettled. Puis j'ai lu toutes les extensions, puis en lisant le livre, je me rendais compte à quel point c'est le fun de lire un livret où tu as hâte de jouer au jeu. Tu sais, je lisais, c'est un jeu qui est quand même relativement simple, mais qui est dans une certaine complexité par rapport aux tuiles. Mais là, Awaken Realm, on écrit à l'endos des tuiles tout ce que les tuiles font. Fait que t'es pas nécessairement obligé de revenir dans un aide de jeu, mais il y a un aide de jeu aussi. Et j'ai vraiment une belle excitation. Donc, je trouve ça le fun des fois quand on lit un livret puis qu'on se rend compte que ça nous donne vraiment encore plus le goût de jouer à un jeu de société. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi de vivre ce type d'excitation-là après avoir lu un livret d'instruction? Et je me souviens que j'avais fini de lire le samedi matin, et là, je m'étais dit, OK, toute la journée, je vais jouer à Castle Burgundy pour finalement, éventuellement, parce que je veux faire une partie solo. Je veux présenter les deux solos pour les comparer après ça. Et finalement, j'ai pas eu le temps de le faire, puis là, m'est arrivée l'idée qu'il fallait que je fasse une vidéo d'Unsettled, parce que j'ai dit à Lucky Dog Game que j'allais leur faire une vidéo. Et là, ça fait longtemps que j'avais pas joué à Unsettled et j'ai lu le livret d'instruction d'Unsettled et encore une fois, ça m'a donné le goût de jouer au jeu. Et là, Unsettled, c'est le jeu qui est présentement sur ma table pour être présenté sur la vidéo, évidemment, mais aussi pour être joué. Donc, mon but, c'est de présenter une partie, même si pour Lucky Dog Games, j'ai pas cette demande-là de faire une partie filmée, mais pour ma chaîne, je vais le faire pareil parce que ces livrets-là m'ont vraiment, vraiment beaucoup intéressé. Donc, de là, encore une fois, ce qu'on parlait, Martin et moi, la semaine dernière, de là, l'importance de créer des livrets d'instruction qui sont, ma foi, comment dire, qui sont clairs, qui sont limpides, puis qui sont, je ne sais pas, qui sont écrits d'une façon à nous rendre très excités là, de jouer au jeu, concrètement. Puis je pense qu'on en parlait souvent, Martin et moi, de le livret est souvent le dernier élément à être fait dans un jeu de société. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeux de société qui devraient passer par un temps supplémentaire pour créer justement ce livret qui soit assez simple à consulter, aussi simple à consulter et fun à lire. Et qu'est-ce qui est le fun à lire dans un livret d'instruction? Moi, je vous le dis, c'est de lire une règle puis d'avoir un exemple. Quand tu finis par avoir un exemple, là, c'est toujours, toujours, toujours agréable. Fait que voilà. Mais malheureusement, j'ai pas encore joué à Castle of Burgundy, mais là, voyez-vous, je vous en parle, puis je pense que Castle of Burgundy va faire partie des jeux que je vais apporter en fin de semaine. J'en apporterai pas beaucoup. Je pense que je vais apporter, je vais apporter Woodcraft, je vais apporter Castle of Burgundy, puis je vais apporter Wild Tile West. Je pense que c'est les trois jeux que je vais apporter pour jouer. Puis après ça, je vous l'ai dit, j'ai une partie de Food Chain Magnate. J'ai une partie de... Puis là, il va falloir que je me remette dedans, parce que ça fait longtemps. J'ai une partie de Batman Gotham City Chronicles. Je suis posé de jouer à Too Many Bones. Puis à un moment donné, on n'a quand même pas tant que ça. Puis là, je vous le dis, Food Chain Magnate, c'est assez long comme jeu. Castle of Burgundy, c'est pas très long, par contre. Mais Batman Gotham City Chronicles, c'était très long à mettre en place. Pas si long que ça à jouer, dépendamment de ce qu'on fait, là. Mais Too Many Bones, si on joue surtout une partie à 3 ou 4 joueurs, ça peut prendre des heures et des heures. Mais l'important, c'est d'avoir du plaisir. Fait que c'était mes expériences ludiques pour ce podcast. Donc, encore une fois, pas beaucoup d'expériences ludiques. J'en attends beaucoup. Je pense essayer pour la semaine prochaine. Mais là, je m'en vais au Delirium Ludique. Fait que c'est sûr que je vais avoir des expériences à vous parler. Mais la semaine prochaine, c'est un côté B. Puis c'est un côté B que je vais faire peut-être avec Martin, s'il est disponible, ou avec quelqu'un d'autre, on verra. Mais sur un sujet, là, vous savez qu'on essaie toujours de prendre un sujet, mais j'aurai sûrement de l'occasion de vous en parler et de vous parler aussi du jeu Wild Tile West, qui est un jeu que qui ne me disait absolument rien parce que je ne suis pas du tout intéressé par les jeux de type western. Ça ne m'attire pas du tout, ces jeux-là. Mais le concept de lancer des dés, placement... J'aime beaucoup les jeux de placement de tuiles. Je me suis laissé embarquer. C'est Martin qui nous en a parlé, je pense, c'est la semaine dernière. Ou l'autre semaine d'avant, là, je me rappelle plus exactement. Puis je suis tout de suite tombé en amour avec le concept du jeu et je m'en suis procuré une copie. Et je vais l'apporter également au Delirium afin de pouvoir y jouer. C'est pas un jeu qui a beaucoup de livrets d'instructions. Alors voilà, j'aurai l'occasion de vous en parler. Bon, on va prendre une petite pause, puis moi-même, je vais prendre une petite pause parce que je peux le faire. D'habitude, vous savez qu'on fait 3 heures d'enregistrement de suite quand j'étais avec Martin, mais là, cette fois-ci, Martin n'est pas là. Fait que je peux arrêter mon enregistrement, aller faire d'autres choses, dont le souper, puis vous revenir avec la suite. Ce qui nous reste, c'est de vous parler de quelques actualités que j'ai trouvées, mais surtout, de ce sous-financement qu'on va jaser ensemble. En fait, je vais jaser tout seul, mais vous pourrez me répondre dans les commentaires dans la page Facebook des fans de l'autre côté du plateau. Mais juste avant, je vais vous parler de mon commanditaire, de la boutique de jeux La Pioche. Alors, je reviens dans quelques instants. Alors, il est maintenant temps de vous parler de notre extraordinaire commanditaire, boutique de jeux La Pioche. Alors oui, cette semaine, je veux parler de quelque chose d'un peu différent. Je veux vous parler du service à la clientèle de notre ami JP, qui est vraiment un service extraordinaire. Je vais commencer par vous parler de sa rapidité. Parce que oui, effectivement, j'ai été habitué dans les dernières années à commander des jeux en ligne et des fois attendre quelques jours avant que finalement notre commande soit envoyée par la poste ou par un service quelconque. JP, lui, c'est un service excessivement rapide, alors il va vraiment prendre votre commande avec beaucoup de sérieux et il sera envoyé dans les plus brefs délais. Et en plus, c'est probablement un des propriétaires de boutiques que j'ai vu qui est le plus disponible pour ses clients. Alors, si vous vous rendez dans le Discord de la Zone de Société, dans la section qui s'appelle donc La Pioche, vous pouvez poser plein de questions à JP concernant des jeux que vous aimeriez avoir, des commandes spéciales que vous pourriez faire, et JP va se faire vraiment un plaisir de vérifier s'il peut se procurer les jeux, faire des précommandes, s'assurer que vous ayez ce que vous voulez. Bref, vous ne serez pas un numéro. Alors, c'est définitivement un service à la clientèle extraordinaire. Et tout ça, vous retrouvez ça aux boutiques Le Jeu La Pioche, que vous pouvez retrouver au www.boutiquelapioche.com ou vous rendre directement au 106 boulevard René-Lévesque-Ouest à Québec. Mais alors voilà, on est de retour dans ce podcast qui va sûrement passer à l'histoire. J'espère que vous appréciez quand même ma voix dans un premier temps, et j'espère que vous appréciez ce que j'essaie de vous entretenir dans ce magnifique monde des jeux de société. Je suis allé souper avec ma famille, alors manger de l'excellent poisson, et là, faites la vaisselle, aider ma fille pour des devoirs, et je suis de retour avec vous pour vous entretenir cette fois-ci de quelques éléments d'actualité. C'est quand même drôle parce qu'il n'y a pas tant de grandes annonces. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est sur le bord des scènes et j'imagine qu'on va avoir plus d'annonces la semaine prochaine. Mais au niveau de l'actualité, ce qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné, puis c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui même, le 21 septembre, au moment où j'enregistre ceci, c'est la compagnie Synapse, donc Synapse Games, qui est une compagnie qu'on apprécie quand même beaucoup. Hein? Le pire, c'est que ça me dit quelque chose, me semble. Synapse, c'est une compagnie québécoise. Hein? C'est bien ça. Le pire, c'est que j'ai fait la publicité en ne sachant même pas que c'était une compagnie québécoise, parce que, ben oui, Synapse Games est un éditeur canadien de jeux de société fondé en 2018 par un certain monsieur Carl Brière, fondateur et épicurien en jouets de nature, passionné depuis fort longtemps. Fait que je suis super content, de faire cette fameuse nouvelle-là, parce que, dans le fond, c'est que la compagnie Synapse a comme annoncé deux jeux qui vont faire en nouvelle édition, puis c'est des éditions qui sont quand même, je vous dirais, assez spécial. Le premier, c'est Yokohama. Donc, Yokohama, qui est c'est un jeu de Asashi Hayashi. Le nouvel élément artistique, ça s'appelle The Creation Studio. Écoutez, on dit que Synapse Games will release a new edition of Yokohama in August 2024. Donc, au mois d'août 2024, Yokohama, qui est un de mes jeux favoris, et j'ai adoré Yokohama, et j'ai même adoré Yokohama Duel, qui est un jeu que j'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps, puis que je pense que j'ai fait une partie, et je ne suis pas sûr si elle n'est pas filmée d'ailleurs, une partie avec mon ami David Couteau, le professeur Board Game. Mais en tout cas, on dit que le gameplay, donc la jouabilité, va demeurer la même que la version originale de 2016. Et il va y avoir des items promotionnels qui vont être rajoutés par rapport à 2007. Et on parle aussi que le graphic design, donc le design graphique, va être complètement revampé avec des plateaux qui vont être double couche pour que les pièces puissent bien s'installer dessus. Et un kit séparé, donc un kit à côté, vous allez pouvoir acheter des metal coins. Donc, Synapse Game, Yokohama, un de mes jeux favoris de tous les temps. Vraiment, j'adore ce jeu-là, qui est un... Yokohama, c'est un jeu qui était quand même assez spécial, où c'est un jeu, un genre de jeu économique. Puis, c'est un jeu où on devait se déplacer sur un plateau qui était aléatoirement fait, si ma mémoire est bonne, le jeu de 2016. Et puis, ça faisait une forme, une genre de pyramide, et c'était un jeu où on pouvait aller chercher vraiment beaucoup de ressources. C'est un jeu que moi, j'apprécie beaucoup, ces fameux jeux de la possibilité, plus on avançait, plus notre bonhomme était fort, plus on pouvait prendre une action forte, aller chercher beaucoup de ressources pour pouvoir accomplir des commandes, encore une fois. Donc, c'était l'idée pas mal du jeu. Et moi, c'est mon style de jeu que j'apprécie beaucoup. Puis, Yokohama Duel reprenait cette vision-là, puis le faisait... dans une partie à deux joueurs uniquement. Et je pense que c'était un des derniers jeux que j'ai reçu de la compagnie Tasty Minstrel Games qui ont fait faillite par la suite. Mais Yokohama Duel et Yokohama sont encore tous les deux dans ma ludothèque. Alors, je suis vraiment très, très content à tout le moins pour les gens qui vont peut-être pouvoir justement découvrir une nouvelle édition de ce jeu-là. Et c'est vraiment cool que ce soit une compagnie québécoise, canadienne qui fasse ça. Et en même temps, Synapse Games, excusez-moi, c'est Lucky Duck Games qui vient d'annoncer un partenariat avec Splatterspellen, donc Splatter Game, pour faire une édition spéciale de Food Chain Magnate, qui va s'appeler d'ailleurs Food Chain Magnate Special Edition. Et là, c'est la sortie de Food Chain Magnate avec son extension qui s'appelle The Ketchup Mechanism and Other Ideas. Et vous savez que la plus grosse problématique du jeu Food Chain Magnate, qui est un jeu que je suis supposé d'ailleurs de jouer en fin de semaine, c'est le côté visuel du jeu. Et là, ce qu'on dit, c'est que Lucky Duck devrait changer absolument rien du gameplay, mais c'est vraiment une amélioration au niveau esthétique. Avec des figurines, imaginez-vous donc, pour placer des maisons. D'après ce que je peux voir dans l'image, là, c'est placer des maisons, placer des restaurants. Et il va y avoir aussi une modification, d'après ce que je peux voir, pour ce qui est des ressources. Là. On dit qu'il va y avoir des nouveaux trackers, puis la boîte va être mieux faite. Bref, c'est tout simplement des refontes de jeux qui existent. C'est comme dans le monde du cinéma, où dans le monde du cinéma, ces temps-ci, on refait beaucoup des films à succès d'il y a plusieurs années. Mais là, ça a l'air que dans le jeu de société, on est rendu là, parce que Yokohama, j'avoue que je vois présentement les images, puis ils ont vraiment changé le côté artistique qui semble être un côté artistique plus réaliste. Alors que Food Chain Magnate, je pense que ça sera pas dur à battre parce que le jeu, il est d'une laideur incroyable. Ça n'empêche pas que le jeu est quand même très, très bon, mais je trouvais ça quand même, de mon côté, je dois vous avouer que je trouve que c'est une bonne idée. J'ai encore ma version de Food Chain Magnate qui, selon notre ami JP de la Pioche, qui a un charme. C'est un jeu qui a un charme. Je suis d'accord, mais à un moment donné, le charme, on peut peut-être l'améliorer, puis c'est ce que je pense, ce qu'ils vont essayer de faire avec cette nouvelle édition. Avant qu'on passe au socio-financement, c'est ma nouvelle chronique, la chronique de Martin Montreuil. Vous savez que c'est la chronique où on parle de Roll and Write. Alors, il y en a un que j'ai vu, j'ai pas beaucoup d'informations, mais c'est un jeu qui est publié, c'est un jeu japonais là, qui devrait sortir je ne sais pas s'il va sortir à SN 2023 peut-être. Alors, c'est un jeu qui s'appelle News Boys de l'éditeur Sashi et Sashi et de Wank Games. Et c'est un jeu, d'après ce que je peux voir, qui semble être un jeu à deux joueurs, à moins que je me trompe. On dit que c'est d'un à quatre joueurs. Donc, un à quatre joueurs. Mais c'est un roll and write qui se passe à Brooklyn, New York, dans les années 1890, où on va jouer, dans le fond, des paper boys, ces fameux jeunes garçons et filles qui transportaient les journaux dans le passé. Maintenant, aujourd'hui, ça prend des personnes plus âgées avec une automobile parce qu'il y a tellement peu de gens qui sont maintenant... Là, je parle du Québec et du Canada. Il y a peu de gens qui sont maintenant abonnés à des journaux papier. Donc, souvent, c'est des personnes plus âgées qui ont une automobile parce qu'ils font plusieurs villes pour pouvoir amener leur journal papier. Alors, c'est un roll and write dans lequel on semble avoir un côté avec des cartes, un côté avec des dés, puis avec des crayons effaçables. Et c'est un jeu sûrement que notre ami Martin Montreuil va probablement essayer éventuellement. Puis là, je pourrais vous expliquer les règles, mais même moi, je comprends pas trop. On dit que à chaque tour, quelqu'un va flipper le dessus de la première carte du deck pour révéler trois icônes. Et chaque joueur va rouler trois dés. Donc, c'est ça que je comprends. Et après ça, chaque joueur va choisir un icône et ils vont marquer le plus de ces icônes-là sur des espaces de leur plateau qui sont visibles sur leur carte et leur dés. Le but, j'imagine, que c'est de faire des chemins pour aller livrer des fameux journaux en question. Donc, chaque icône va représenter des entreprises, des maisons, des écoles, des usines et des usines, des factories puis des shops. Alors, ça doit être des magasins. On va gagner des points pour justement livrer le plus rapidement nos journaux. Et celui qui a le plus de points va gagner la partie. En tout cas, honnêtement, c'est un thème que je trouve très intéressant. Je dois vous avouer que c'est un emploi que j'aurais bien aimé faire lorsque j'étais plus jeune, mais que j'ai pas eu la chance de faire. Mais encore aujourd'hui, je reçois un journal, même si présentement je le reçois gratuitement pour une raison que je comprends pas. J'ai arrêté mon abonnement et puis je continue quand même à recevoir mon journal. Mais même si je suis très technologique, j'aime encore le côté tactile des journaux. Fait que un jeu qui s'appelle donc News Boys. Ben écoutez, moi c'est tout pour ce qui est de l'actualité, mais je vais quand même passer plusieurs minutes sur le socio-financement parce que il faut quand même que je vous dise que même si on fait beaucoup, si on parle beaucoup, beaucoup, Martin et moi, on critique beaucoup le socio-financement. C'est pas qu'on critique pour critiquer et pour dire que ce n'est pas bien de faire du socio-financement. On critique seulement pour que cette façon de dépenser notre argent soit la plus transparente possible. Je pense que c'est ça qu'on veut. Moi, je le répète encore, mon 6 mois que j'ai pris sans backer aucun jeu, ça m'a aidé honnêtement à me décrocher du socio-financement. Puis c'est pas décrocher pour dire que je ne veux plus faire de socio-financement, mais c'est décrocher pour dire que maintenant, je prends un peu plus de temps, sauf quand c'est Chiptree Games, hein, je prends un peu plus de temps pour vérifier les campagnes puis pour choisir maintenant des jeux qui vont plus m'intéresser et pour lesquels je vous dirais que j'ai un petit penchant plutôt que ce que je faisais avant, alors qu'avant, on dirait que je backais juste pour avoir un jeu qui allait m'arriver de façon... je me souviens, là, dans les premières années, là, je backais des jeux. Puis à un moment donné, je me disais, OK, j'en ai pas backé depuis un certain temps. Donc, je voulais recevoir des nouveaux jeux par la poste de façon périodique. Et là, vous savez que ça marche plus comme ça maintenant. Hein? C'est, même si on te dit que le jeu va sortir en mars 2024, mais il va probablement sortir en juillet ou septembre, octobre, novembre 2024 ou 2025. Fait que c'est ce qui fait en sorte que mon moment où j'ai le plus de temps, depuis 2 ans, là, mes moments où j'ai le plus de temps d'essayer des nouveaux jeux, l'été, parce que je suis en vacances, parce que je suis un enseignant, je reçois 0 jeu de société, donc de socio-financement. Et puis les moments où j'ai le moins de temps, comme pendant l'automne, là, je pense que je vais en recevoir, je vais recevoir Voidfall, je vais recevoir Tamashii, je vais recevoir 20 Strong. Me semble qu'il y en a un autre aussi qui est sur le bord, que je suis sur le bord de recevoir également. Donc, ça finit par ne plus fonctionner. Et je fais attention parce qu'il y en a vraiment des très, très bons. Il y en a d'autres qui vont finir par se ramasser en magasin, mais je suis d'accord avec vous. Peut-être à un prix moindre. Mais mon argent actuellement, c'est pas quelque chose qui pousse dans les arbres. Et je dois vous avouer qu'avec, on n'est pas en crise économique, mais avec les problématiques économiques que nous vivons, moi avec mes 3 enfants, puis bon, ma chaîne me rapporte un très petit montant d'argent, mais j'ai quand même un commanditaire très généreux pour recevoir des jeux. Mais mon commanditaire va pas me payer mes campagnes de socio-financement, donc faut que j'aie de l'argent pour le faire. C'est plus difficile et j'aime mieux ces temps-ci avoir des jeux. Voilà. Voidfall, je pensais vraiment le recevoir plus tôt, là. Mais je veux vraiment recevoir des jeux qui vont, comment dire, que je vais recevoir vite et rapidement plutôt que de payer de l'argent qui va s'en aller dans les poches d'un éditeur que je vais aider, mais que je vais recevoir le jeu plus tard. Fait que c'est pour ça que j'ai comme ralenti. J'ai plusieurs quand même campagnes à vous parler. Je vais commencer par le premier qui est une compagnie que je commence, je vous dirais, pas mal à backer presque aveuglément, là. Je ne l'ai pas fait encore au moment où j'enregistre ceci. C'est le jeu qui s'appelle Dragon Eclipse de la compagnie Awaken Realms, qui est rendu au moment où j'enregistre ceci à 2 221 399 $ canadien. Faites attention, c'est en argent canadien. Il reste encore 18 jours à la campagne. Et est-ce qu'il est intéressant, ce jeu-là? Écoutez, si vous avez écouté ma zone du dimanche la semaine dernière avec mon ami Stéphane, ou c'était dimanche passé, Il y a deux choix avec le jeu. Il y a le choix à 55 $ américains, qui est dans le fond la version du jeu complète, mais pas de figurines. OK? C'est 55 $ américains. C'est vraiment pas cher. C'est peut-être à peu près, mais quand je dis pas cher, c'est toujours dans la relativité de ce qu'est le prix d'un jeu de société présentement. Ça va peut-être monter à peu près à 75-80 $ canadiens. C'est intéressant. À 119 $ américains, on a 30 figurines. Au début, je pensais que les figurines servaient à rien, mais non, ils servent à quelque chose. Toutes les autres figurines qui vont être débloquées pendant la campagne, les Premium Full Packaging for Booster Cards, parce que c'est un jeu de cartes en passant. Donc, on va recevoir, dans le fond, des paquets plastifiés super hot qui servent à rien, selon moi. On va recevoir un binder, donc un cartable un petit peu à la ISS Vanguard pour ranger nos créatures qu'on va avoir pendant notre campagne. On va avoir 60 marqueurs en acrylique et une big box qui on dit qui est une special edition qui va avoir un effet quand on le met à la lumière. Ça sert pas à grand chose. Mais sinon, le jeu en tant que tel, on parle quand même de 600 cartes, incluant 300 cartes d'action, 200 petites cartes, un journal d'aventure de plus de 200 pages, un arena book parce que c'est un jeu de combat à la Pokémon. Alors oui, je vais le dire le mot, c'est à la Pokémon. Arena book qui a 10 arènes à l'intérieur. Un location book parce que c'est un jeu de campagne narratif avec 35 location maps, donc des lieux pour faire nos aventures. 10 booster pack envelopes, donc qu'on va avoir dans des enveloppes dans la version de base ou dans des magnifiques je sais pas comment appeler, des paquets de cartes comme l'Arcana, là, quand vous achetez des paquets de cartes de Magic ou peu importe, comme je vous dis, ça ne sert pas à grand-chose. On va avoir 30, il va y avoir 30 figurines ou des standees, donc dans la version de base, ça va être des standees. Il va y avoir 100 ou plus de 100 marqueurs. Il va y avoir un Missling Tray, je sais pas ce que ça veut dire exactement, et 40 dividers, donc des séparateurs pour les cartes. Alors, tout ça pour la modique somme de 55 $, c'est sûr que on rajoute 30 figurines pour 50 quelques dollars de plus. C'est là que moi, je me pose des questions sur quelle édition, parce que c'est sûr que je vais me le prendre. C'est sûr, 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 sûr. Écoutez, ce jeu-là vient... Moi, j'aime beaucoup les jeux de cartes. J'adore les jeux de cartes. Je suis pas un fan de Pokémon. Puis là, je parle vraiment du jeu vidéo Pokémon. J'aime pas trop le jeu Pokémon. Okay? Mais le concept de ce jeu-là, qui est un jeu de combat de figurines en utilisant des cartes. J'ai toujours aimé ça et il se joue également en solo. Et c'est un jeu qui est en plus narratif. Puis là, vous allez dire, Martin, tu en as beaucoup des jeux narratifs, mais qu'est-ce que vous voulez? J'aime ça, des jeux narratifs. J'aime ça. C'est ce que j'aime dans les jeux vidéo. C'est ce que j'aime dans les jeux de société. J'aime ça vivre une histoire. Ça changera jamais, même si j'ai pas vraiment le temps de tout finir ça un jour. Quand je vais prendre ma retraite, je vais avoir le temps. Mais là, pour l'instant, juste le concept de pouvoir m'amuser, d'avoir du plaisir avec ces jeux-là, ça va être le fun. Et là, je regardais la campagne, puis bon, Lim nous montrait toutes les figurines. En fait, les figurines représentent les différents des différentes créatures qu'on va pouvoir trouver, ramasser, apprivoiser, dans le fond. Et ces créatures-là sont, bon, évidemment, on va pouvoir les peindre, ça c'est toujours le plaisir, mais ils ont des points de vie, des points d'attaque, des points de défense, des mouvements, et les cartes d'action qui sont des cartes avec lesquelles on va faire des combats. Comme je vous dis, ça me fait beaucoup penser un petit peu au concept de Pokémon, là, avec le concept du jeu. Je sais que je dis ça, puis là, il y en a qui vont dire, oh non, moi je ne jetterai jamais ça, mais allez faire un petit tour, je trouve ça intriguant. Intéressant. Puis au début, je regardais ça, puis j'étais comme, ouais, OK, jeu de Pokémon. Je savais pas trop c'était quoi. Puis là, on descend, ils présentent vraiment les 30 personnages, les magnifiques figurines que je dois vous avouer qui sont vraiment, comme d'habitude, très belles. Les booster packs, parce que le jeu va venir avec des boosters qui sont, je pense, réutilisables. Donc, si vous refaites la campagne, pour imiter un petit peu le fait que vous ayez un genre de CCG, un collectible card game, mais dans la boîte, vous avez tout ce que vous avez besoin pour jouer. Il n'y aura pas besoin de se racheter d'autres boosters, mais vous comprenez qu'il risque d'avoir beaucoup d'extensions de ce type-là. Il va. Puis sinon, c'est des enveloppes, c'est pas dans des beaux petits boosters. Puis les enveloppes, c'est bien correct aussi. Puis il y a vraiment le concept de Every Booster Contains. Donc, toutes les boosters ont 13 cartes, une légendaire, 4 rares et 8 common. Donc, il imite vraiment le concept de CCG, mais ça n'en est pas un, là. OK, on s'entend. Là, puis c'est écrit, la Core Box va avoir toutes les cartes nécessaires pour la première édition du jeu. On s'entend qu'il va en avoir d'autres. Toutes les créatures fonctionnent avec des éléments. Donc, jusque-là, ça allait. Il y a des foil effects, ça fonctionne. Et là, après ça, j'arrive au binder. Puis le binder, ce qui est cool, c'est que le binder qui est un cartable, un petit peu comme dans ISS Vanguard, ils finissent par réutiliser leurs choses qu'ils ont faites dans d'autres jeux. C'est toutes des créatures qu'on va trouver dans notre aventure narrative. Et là, quand j'ai vu aventure, la location book, c'est quelque chose que j'aime. Donc, on va promener un petit personnage, il y a des scripts. On va avoir des choix à prendre. Il y a des cartes secrètes qu'on va découvrir, ce que j'aime beaucoup. Il y a 50 cartes d'items qu'on va ramasser dans cette aventure-là. Il y a 100 cartes additionnelles d'action. Il y a 18 cartes de monde qu'on va probablement rajouter sur notre plateau pour changer des éléments du monde. Et les arènes, c'est les endroits où on va faire les combats. Et voilà. Puis tout ça, c'est un jeu présentement qui, je vous dirais, ne coûte, si, là je vends dollars canadiens, ne coûte que 76,01 $ en argent canadien pour la version de base ou 164,47 $ pour la version édition spéciale. Et on nous promet une livraison en septembre 2024. Et là, pour l'instant, est-ce qu'on a... parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont fait des présentations. Ce que je trouve plate un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de francophones. Ça aurait été le fun, à moins que j'en ai manqué un. Mais ce que je me pose comme question, c'est est-ce que nous avons des versions en d'autres langues? Et là, je pourrais vous dire que présentement, ah oui, c'est écrit ici. Ah non, ship. Ah oui, Language Edition. C'est écrit ici qu'on a toutes les langues, là, anglais, espagnol, français, il est là. Et les éditions de langue vont être envoyées 6 mois plus tard. Je le crois pas. OK, ça sera pas 6 mois plus tard, ça va être 1 an plus tard. Pourquoi est-ce que Wicked Realm ne fait pas les deux? Pourquoi ils ne font pas toutes les langues en même temps plutôt que de faire... C'est sûr que de mon côté, j'ai plus tendance maintenant à se sous-financer des campagnes qui sont en français, là, qui de The Wicked Realm, je parle, de n'importe qui. S'ils sont capables de me dire que le jeu va sortir en même temps en français et en anglais, mais c'est parce que ce que je trouve plate, c'est qu'étant un passionné, évidemment, je parle à des passionnés, j'imagine, étant un passionné et étant bilingue, puis je pense pas tant que ça jouer avec mes enfants. Là. Puis même là, mes enfants, mes deux gars sont bilingues. Ma fille va finir par le devenir, ce sera pas long. Ma blonde est capable de jouer en anglais. Moi, c'est vraiment une question de... Je veux pas jouer à ce jeu-là dans 3 ans. Je veux jouer... C'est correct d'attendre 1 an, 2 ans peut-être. 1 an et demi, mettons. Mais je ne... En tout cas, je veux plus... Je trouve ça plate parce que effectivement, ils n'ont pas tendance à nous envoyer ces jeux-là dans d'autres langues rapidement. Alors, mais le jeu Dragon Eclipse, de mon humble opinion, pour moi, je vais backer ça. C'est un oui. Et là, il me reste juste à choisir quel mode. La dernière fois que j'ai pris un Core Pledge puis que j'ai pris une édition standard, c'était Rainbow Six, c'était Six Siege. Et vous savez ce qui est arrivé avec ça. Donc, je suis peut-être mieux de prendre des éditions spéciales. En tout cas, je ne pèse pas sur le piton tout de suite. Je vais voir. Je vais voir, mais je peux vous dire que moi, là, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire c'est trop simple. Il y en a que sur mon Discord disaient c'est beaucoup trop simple comme jeu. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et moi, je suis correct avec les jeux simples. On en a parlé avec Martin Montreuil. C'est pas que nécessairement le jeu semble être ultra simple, mais il ne sera pas alambiqué, il ne sera pas fiddly. Donc, pour moi, ça me va pour l'instant. Mais en tout cas, je vous en parlerai. Il me reste encore 18 jours pour prendre ma décision. C'est sûr que l'on a aussi Oplomachus Pandora's Box de la compagnie Chiptree Games. Celui-là, j'ai pesé sur le piton. On parle évidemment de plusieurs extensions pour Oplomachus. Ben, en fait, c'est des modules pour Oplomachus Victorum et aussi pour Oplomachus Remastered. C'est Pandora's Ruins et Pandora's Might. Et Pandora's Might, c'est écrit dessus Oplomachus Series. Donc ça, ça veut dire que vous pouvez l'ajouter, celui-là, dans Oplomachus Victorum ainsi que dans Oplomachus Remastered. Et vous avez aussi Pandora's Wake, qui est une extension de Oplomachus Remastered, probablement avec plusieurs, j'imagine, des sillons de plus. Pas des sillons dans celui-là. En tout cas, des gros méchants. Mais moi, Oplomachus Remastered, Oplomachus Victorum, j'adore. Et en plus de ça, ils ont Oplomachus Quictorum, je pense qu'ils l'ont appelé, où ils ont mis une... où ils vont mettre justement une version plus rapide de Oplomachus Victorum, qui selon moi est son seul défaut présentement à Oplomachus Victorum, c'est sa longueur. Alors ça s'appelait... Ah, c'est Mercury's Boots Quick Play, qui existe déjà, je pense, d'après ce que j'ai compris. J'ai vu des gens qui l'avaient backé. J'ai vu mon ami là de Les Rois de Trèfle qui l'avait déjà. Mercury's Boot Quick Play, qui s'appelle le Quictorum, qui est une nouvelle façon de jouer et qui nous fait ça. Dans le fond, c'est un free Mercury. En fait, on peut, je pense, télécharger, c'est ça que je comprends. On peut télécharger le module, parce que là, je clique dessus, puis je pense que je peux télécharger le fameux module en question. Si je voulais, donc avec les rules sheet et tout ça, fait que c'est cool. Mais bon, si vous prenez l'extension, vous allez le recevoir avec la belle version, mais je trouve ça cool qu'il le donne, mais en même temps, c'est intéressant de l'avoir dans l'extension. Fait que bref, c'est des nouveaux baddies, des nouvelles cartes pour Victorum, des nouvelles arènes pour Remastered, même une arène avec des bateaux, que je dois vous avouer que Stéphane et moi, on a trouvé très, très intéressant. Alors, des combats de bateaux où on va se promener avec des bateaux sur l'arène, et lorsque les bateaux vont être un à côté de l'autre, il va y avoir un combat qui va commencer avec les gens qui sont dans le bateau. Fait que je, en tout cas, je trouve ça vraiment très, 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 très intéressant, très cool. Et pour moi, c'est sûr et certain que c'était... je back ça automatiquement. Ils ont ramassé quand même, c'est pas beaucoup, hein? Ben, 665 835 $ canadiens, c'est pas une énorme somme, mais c'est quand même 3519 backers. Et pour moi, c'est le pledge à 100 $ américains, là, qui est le pledge de tout ce qu'il y a de nouveau. Parce que vous avez toujours le vous pouvez tout prendre si vous voulez, sans problème. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre que je voulais vous parler? Ben, Isopharian Guard est toujours là, en passant. Ils sont rendus à 844 463 $ canadiens. Il reste 8 jours au moment où j'enregistre ceci. Est-ce que c'est un jeu qui en vaut la peine? Ben, si vous ne l'avez pas et si vous voulez un jeu solo qui peut se jouer également très, très bien à deux joueurs, ben écoutez, je vous conseille. C'est sûr que là, maintenant, le full pledge, je pense qu'il y en a seulement un. Il y a juste un pledge, puis c'est le full pledge à 248,78 $. C'est un très, très gros montant. Je peux vous dire que Voidfall, moi, il m'a coûté plus cher que ça. Et il y a beaucoup de contenu. C'est un excellent jeu. Puis ils vont avoir fait d'ailleurs des petites modifications d'après ce que je peux voir. D'ailleurs, moi, la seule affaire qui me reste à voir, c'est je peux prendre le. Attends, je l'as-tu? Il me semblait que je pouvais prendre le new update pack, c'est ça. Donc, un update pack current owners only pour 53,90 $ canadiens. Et je dois vous avouer que je pense que je vais le prendre, l'update pack, qui va, je pense, changer des cartes, qui vont changer les règlements. Fait que c'est sûr que pour moi, ça va être un must, mais on en a parlé beaucoup, Isopharian Guard. Je vous le conseille vraiment, c'est un excellent jeu. C'est sûr que c'est un peu dispendieux, mais par contre, ça vaut rien. Vous essayez rien à comparer de ce que c'était au départ, mais là, à ce prix-là, c'est incroyable. Le premier prix à 100 $, 100 quelques dollars, c'était incroyable d'avoir tout ce qu'on a là. Mais là, je dois vous avouer que c'est le prix que je l'ai payé un petit peu moins cher que ça, moi, personnellement. Mais c'est quand même un prix qui est bien correct pour la quantité de matériel que vous avez si vous êtes un joueur solo ou vous aimez les joueurs à les jeux à deux joueurs. Il m'en reste quelques-uns. Écoutez, il y en a un ici que je vois ici. Ça s'appelle Creature Caravan de Red Raven Games. Ah oui, Sleeping Gods, Distant Skies, qui s'en vient d'ailleurs. C'est quelque chose que j'ai oublié de vous en parler tantôt, mais semble-t-il que les boîtes sont dans le bateau et ça s'en vient tranquillement pas vite vers chez nous. J'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu-là. J'ai une campagne présentement dans la zone de jeu de société que j'aimerais bien continuer. Il faudrait bien que je fasse ça avant que le jeu arrive. Alors, c'est là, je vais revenir avec Creature Caravan, qui est un nouveau jeu dans le monde de Arzium. Et Arzium, si ma mémoire est bonne, c'est le monde principal de Red Raven Games qu'on voit un peu partout. Creature Caravan, c'est un nouveau jeu. On a aussi une nouvelle édition, une édition spéciale de Islebound qui s'appelle The Emerald Edition. Et on a un jeu de rôle qui s'appelle The World of Arzium, le jeu de rôle. Alors, c'est ça que vous avez dans cette campagne de socio-financement. Donc, une extension gratuite pour Creature Caravan. La Deluxe Edition pour Islebound, qui est un jeu que j'apprécie quand même beaucoup. Mais évidemment, ce que je trouve intéressant, c'est le tout nouveau jeu qui s'appelle Creature Caravan. Red Raven Games, souvent, c'est un... Ryan Lockett, c'est quelqu'un que je respecte énormément. J'ai jamais été un super fan de son style artistique, mais je trouve que c'est beaucoup raffiné avec le temps et son Creature Caravan monte un petit peu ce raffinement-là, je trouve, par rapport à son style artistique. Le monde de Arzium a une nouvelle problématique à régler. Alors, toutes les hommes, bon, bref, je vous dirai pas tout, vous irez voir, là, mais ça semble être un jeu un peu spécial, là, qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais c'est une caravane qui se promène. On va se promener sur des lieux, puis il semble avoir des combats qu'on va faire. Mais en tout cas, je voulais juste vous en parler parce que je trouvais quand même le concept intéressant. Pour ce qui est de la nouvelle édition de Islebound, je sais pas trop qu'est-ce qui a changé. On dit que c'est des Revised Town Actions, une nouvelle ressource des émeraudes, parce que c'est la Emerald Edition. Puis ça include a Revised Building Deck that incorporates building from both the original game and the Metropolis Expansion. Bon, fait que c'est moins pour moi. J'aime beaucoup le jeu original, fait que l'extension, non. Et le jeu de rôle, ben, peut-être que ça pourrait intéresser mon ami Stéphane Couture. C'est cool qu'il fasse un jeu de rôle, par contre, mais je vous dirais que ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est probablement le Creature Caravan qui est à 69,10$. Fait que je pense que je vais peut-être me laisser tenter par ce jeu-là. Il m'en reste trois à vous présenter. Il y en a un que je connais moins, mais je sais qu'on en a beaucoup entendu parler. Alors, c'est une campagne de socio-financement qui s'appelle Beast. Alors, Beast Shattered Isle. J'en ai beaucoup entendu parler dans le podcast de Secret Cabal, de ce jeu-là, Beast, qui, je pense, est un jeu de combat de créatures, peut-être. Mais je sais que les gars de Secret Cabal ont bien aimé le jeu en tant que tel. Je vous en parle parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui m'en ont déjà parlé. C'est un genre de jeu où on doit chasser des beasts, genre, je sais pas. En tout cas, bref, sachez que l'extension Shattered Isles est maintenant disponible en campagne de socio-financement. Puis vous pouvez évidemment prendre la boîte de base si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous voulez avoir les trois, donc Beast, Shattered Isles et The Great Hunt, c'est $174.91. Si ça vous tente de prendre ça. Sinon, il y a d'autres... Il y a d'autres pledges que vous pouvez prendre si ça vous tente. Je vais m'en aller maintenant sur Kickstarter parce que là, j'étais sur GameFound. Je vais juste retrouver mon Kickstarter. Je les ai-tu perdu mes Kickstarter parce qu'il y en avait deux que je voulais vous parler sur Kickstarter. Mais en fait, le premier que je voulais vous parler sur Kickstarter, c'était un certain Terraforming Mars, Prélude 2. Et là, j'essaie de le retrouver justement. Ça s'appelle More Terraforming Mars avec le Terraforming Mars Automa et le Terraforming Mars Prélude 2. Et là, si vous pensiez que les gens n'étaient pas intéressés par ce jeu-là, et là, il reste 15 heures au moment où j'enregistre ceci. Fait que ça veut dire qu'il est déjà trop tard si vous écoutez ça. Je pense, à moins que vous écoutez ça aux petites heures du vendredi. Là. Mais c'est 2 717 915 $ canadiens, 17 217 contributeurs, et au moment où j'enregistre, ça ne fait qu'augmenter. C'est dans le fond deux autres extensions. Il y en a un qui c'est Prélude 2, qui je pense est Bon, ça suit Prélude, là, qui était, je pense, une des premières extensions, je pense, de Terraforming Mars. Et le deuxième, c'est des Automa Solo Expansion. Et là, à chaque fois que je vois ça, s'il y en a encore qui pensent que pas mettre de solo dans leur jeu, c'est mieux, mais sachez que j'ai l'impression que cette campagne de socio-financement de Terraforming Mars, les 17 218 personnes, je suis pas mal certain qu'une bonne partie d'entre eux ont pris cette décision-là pour l'extension de l'Automa. Alors, écoutez, l'Automa, on dit que c'est un design de Nick Shaw et de David Turczy. Et je vous rappelle que Nick Shaw et David Turczy, c'est eux autres qui ont fait Voidfall. Donc déjà là, je pense qu'on a quelque chose d'extraordinaire. On a, avec dans cette extension-là, un plateau triple couche, 6 boards d'Automa, un Venus Next Automa Board, une Colony Shipping Board, un Neural Instance Style, one Final Scoring Reference Card, one Rulebook, 31 cartes d'Automa bonus, 46 cartes de corporation d'Automa, 6 boards de référence, des cubes, bref, tout plein de choses pour pouvoir y jouer en solo. Ça va avoir pris du temps avant qu'on ait finalement un Automa solo pour ce jeu-là. Mais ça a valu la peine parce que ça permet à la compagnie Stronghold Games et Frick's Games de se ramasser 2 718 017 $ canadiens. Je trouve que c'est un magnifique succès qui aurait probablement pu directement mettre en magasin, mais au moins ils savent qu'ils ont 17 218 boîtes à faire. Alors c'est quand même pas si pire. Et mon dernier que je voulais, parce que vous savez qu'on essaie toujours d'essayer de vous présenter des petites campagnes de ce sous-financement, mais j'en ai un ici d'un jeu qui s'appelle Founders qui est rendu à 608 contributeurs. Il reste 18 jours, donc 62 953 $ canadiens. C'est par ceux qui ont fait le jeu Ice. Et honnêtement, ce qui m'a attiré du jeu, c'est son côté artistique qui est vraiment magnifique. La boîte, elle est incroyablement belle. C'est un jeu qui va se faire en anglais et en français. C'est la compagnie Deswe qui s'occupe de ça, de faire ce jeu-là. Et on parle d'une campagne qui va demander 35 euros, donc environ 51 $ canadiens pour le Standard Edition. Et vous avez 89 euros ou 128 $ canadiens pour la Collector's Edition. Et en gros, ça semble être c'est un jeu de placement de tuiles. D'après ce que on dit, c'est un jeu de competition. Donc, c'est un jeu qui est coopératif. Bon, on n'appelle pas ça competition, on appelle ça semi-coopératif, là. On a un jeu coopératif avec des objectifs qui sont communs, mais seulement un joueur va pouvoir gagner à la fin. C'est un peu plate, ça, par contre. Je suis pas un grand fan des jeux coopératifs qui nous donnent un gagnant à la fin. Je ne sais pas, il y en a combien d'entre vous qui avaient vraiment joué à Legendary en mode coopératif, puis de dire à la fin, c'est moi qui ai gagné. Il me semble que c'est pas grand-chose d'extraordinaire, malgré qu'on joue tout le temps un peu. Voilà, puis il semble avoir une façon. Il y a des sleeves un peu spéciales pour le fonctionnement. En tout cas, c'est des sleeves dans lesquelles on met des cartes de couleurs et je sais pas trop qu'est-ce qui est supposé d'arriver avec ça. Mais en tout cas, le jeu semble beau, mais abstrait. Là, on parle d'un jeu très abstrait. C'est un jeu où on va placer justement des tuiles sur un plateau qui ressemble encore à un plateau de glace. On va avoir des 5 personnages dans le jeu. Il va avoir des sleeves, 10 cartes de sleeves, comme je l'ai dit, qui sont un peu spéciales, avec des cartes de couleurs, des cartes de mini-districts avec des formes géographiques un peu bizarres dessus. Je vous le vends, je pense que je vous le vends très bien présentement. Il y a des cartes, il y a des jetons de fondation, des jetons de district, des jetons de bâtiment, des jetons de barbiche, des yachts, je ne sais pas trop dans le fond, tout ce que. C'est un jeu qui est tellement abstrait que là, pour l'instant, je pourrais vous dire que je ne suis pas très attiré par le jeu. J'ai vu des designers de Ice, mais je pense que c'est trop abstrait pour moi, ce jeu-là. Je déteste pas les jeux abstraits, mais là, je suis pas sûr que c'est un jeu qui vient vraiment me chercher. Mais en tout cas, d'une certaine façon, peu importe, vous pouvez aller voir le Kickstarter. Il reste encore 18 jours pour le jeu Founders. Bon, ben voilà. Écoutez, je sais que j'arriverai pas aux 3 heures. Il y en a qui vont sûrement être un peu déçus. Je pensais pas non plus vous parler pendant 3 heures de temps. Surtout, il faut que je me prépare pour aller au Delirium. Mais je dois vous avouer que j'ai fait ma valise entre mes deux enregistrements. Puis j'ai amené effectivement Woodcraft. J'ai amené Wild Tile West. J'ai amené Castle of Burgundy. J'ai amené aussi Ancient, comment il s'appelle le jeu? C'est un jeu de la compagnie Yellow. C'est des jeux qu'en passant, j'ai pas lu les instructions, mais je risque d'avoir le temps de les lire en fin de semaine. C'est un jeu qui s'appelle, attendez que je le retrouve chez mon commanditaire américain qui en a plus, je pense. Ah, c'est ça, c'est Ancient Knowledge, qui est un jeu de cartes qui me semble intéressant. En tout cas, je serais prêt intrigué à l'essayer. Fait que j'ai aussi apporté ça dans ma valise. Puis en plus de tous les autres jeux qui risquent d'être joués pendant la fin de semaine. Donc voilà, fait que j'ai une grosse fin de semaine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast un peu spécial. Je sais que Martin Montreuil, moi aussi, il me manque énormément. Mais je ne ferai pas des solos à toutes les semaines. Ne vous en faites pas. Si la semaine prochaine, j'ai pas la chance d'avoir Martin en direct pour faire un podcast, ben, je vais trouver quelqu'un pour pouvoir le remplacer et j'ai déjà des noms en tête, ne vous en faites pas. Mais une chose est sûre, peu importe ce qui arrive, Martin va nous revenir et lorsqu'il va être de retour, on va tout de suite s'arranger pour faire notre fameux meet-up qu'on est supposé de faire au Randolph. C'est un peu difficile, hein? Je vous dirais que Martin est un homme excessivement occupé et c'est pas une joke, hein? Depuis le début de l'année 2023, j'ai eu la chance de voir Martin 2 fois, je pense. Une fois au chalet et je pense une autre fois que je suis allé chez eux une soirée pour aller chercher, je pense justement, ISS Vanguard. Mais c'est tout. Peut-être une troisième fois aussi, mais et pourtant, à chaque fois que Martin et moi, on se voit, on a toujours bien du plaisir et on a bien je pense que j'ai joué plus souvent avec son ami Stéphane Bastien qu'avec lui cette année, juste pour vous dire. Puis avec ma fin de semaine, je vais avoir passé, je pense, plus de temps avec Stéphane qu'avec Martin. Mais on l'apprécie beaucoup, Martin. Je sais que tu écoutes le podcast et je sais que tu vas être rendu jusque-là. Et je te souhaite un magnifique voyage. J'ai bien hâte de pouvoir te reparler. Je vous invite à aller faire un petit tour sur notre page Facebook des fans de l'autre côté du plateau. On essaie tranquillement, pas vite, de revenir sur Facebook. Hein. C'est pas évident, je dois vous avouer, de faire partie de tous les médias sociaux, moi, de mon côté, que ce soit le podcast de la zone, le Facebook de la zone de jeu de société, le Discord de la zone de jeu de société, le Facebook de l'autre côté du plateau. C'est, à un moment donné, il faudrait peut-être que je sois capable de réunir tout ça à un seul endroit. Et là, j'aurais peut-être plus de facilité pour interagir avec vous. Mais j'essaie d'interagir le plus possible quand je peux, quand j'ai du temps. Voilà. Fait que, ben écoutez, gang, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Laissez-moi des commentaires sur la page Facebook des fans de l'autre côté du plateau. Dites-moi si vous avez apprécié. Puis je vous demanderai de me dire quelle est la campagne de ce sous-financement qui vous intéresse le plus présentement et qui vous fait le plus douter d'acheter ou de ne pas acheter ou de prendre, de backer ou de pas backer. Alors, laissez-moi vos commentaires. Je vous souhaite une magnifique semaine. Jouez, ayez du plaisir, ayez du fun. Si vous venez au Delirium, venez me dire un petit bonjour. Ça va me faire un énorme plaisir de jaser avec vous. J'ai peut-être l'air bien distant comme ça, mais je suis très approchable et j'ai beaucoup de plaisir quand je suis capable de vous parler. Et je vous souhaite une agréable semaine. On se voit vendredi prochain, tout le monde. Alors, merci et à bientôt.
Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzsprout.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien!